Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, pour cette nouvelle émission de Mon Paris Sport. Alors aujourd'hui, on va prendre l'eau, hein, on va partir sur notre embarcation avec le président donc, du comité régional de canoë-kayak, Éric Poul. Éric, bonsoir, merci de nous avoir répondu à notre invitation, de nous avoir répondu favorablement. D'abord, comment ça va ?
Ça va bien. Très heureux d'être parmi vous. Merci de m'avoir invité.
Voilà. Alors, on va donc effectivement parler beaucoup de canoë-kayak. Je crois qu'on ira aussi faire un petit tour sur le salon de la glisse que vous avez pu vivre aussi par procuration.
C'est ça, oui. Ouais. C'était la semaine dernière. Mm-hmm. La glisse au sens large.
Voilà, c'est ça. Et puis, naturellement, on va commenter l'actu foot. Alors, ce soir, sans notre ami Stéphane Dezenclous, mais avec ceux qui m'entourent, on va d'abord saluer Marius. Bonsoir, Marius, ça va ?
Bonsoir, Philippe. Bonsoir, tout le monde.
Pleine forme ?
Franchement, je suis chaud.
D'accord, très bien. Ligue 1, Ligue 2, nationale, féminine, tout. Et Coupe d'Europe, hein. Et puis un petit peu. Et puis on reviendra aussi un petit peu sur le classement du Ballon d'Or. Bonsoir Théo.
Bonsoir Philippe.
Ça va ?
Ça va super et toi ?
Ouais, ça va, ça va. T'as passé un bon week-end de sport ?
Ouais, carrément. Il y a eu un peu de tout, il y en a pour tous les goûts.
On t'avait parlé de Pogacar, t'as vu, hein ? Il a survolé les points.
Exactement.
Hein. Ouais. Bonsoir Vanessa, comment tu vas ?
Bonsoir Philippe, très bien.
Ça a été un petit peu plus calme cette semaine, après belles semaines donc, passées sur la gymnastique, sur le badminton et puis aussi à Vers-sur-Marne. Donc on va reparler de tout cela dans quelques minutes. Monsieur Poul, je voulais d'abord parler un petit peu de votre itinéraire. Je me suis laissé entendre dire que vous veniez du foot et du tennis.
C'est vrai, oui. Je viens de la banlieue.
Oui, déjà,
je suis
bien.
Né à Paris,
ouais, c'est bien,
mais
Paris,
ensuite
hein.
On a migré... sur la banlieue à Trappes,
qui est
quand même une ville de foot.
Que je connais un peu, parce que j'étais très longtemps sur Rambouillet.
Donc c'était pas loin. Qui a formé des grands joueurs, comme Anelka.
Anelka,
moi, j'ai connu ses frères.
Oui,
l'autre jour, était plus jeune. Mm-hmm. Puis j'ai démarré le foot, effectivement, à Trappes. Ouais. À l'époque, Trappes, on faisait du foot, du tennis, du judo.
Oui.
Et le foot, surtout, jusque minime cadet. J'allais jouer au camp des loges à l'époque.
Et qu'est-ce qui vous fait ensuite passer sur le tennis ?
Alors, la difficulté, peut-être la difficulté du sport en équipe, de jouer tous les dimanches, c'était un peu plus flexible pour moi de jouer au tennis.
Et c'était en quelle année, ça ?
Fin des années 80.
Oui, justement, c'était l'embellie du tennis. C'est pour ça que je vous pose la question.
Voilà. Ah, et puis...
tout le monde voulait ressembler à Borg, à Villas.
Oui, c'est ça. Borg, Villas, Lendl, tous ces joueurs-là, McEnroe. Mm-hmm. Moi, mon joueur préféré, c'était plutôt Edberg, après, suivi.
D'accord, hein, qui arrivait un tout petit peu après.
De voler.
Qui arrivait un tout petit peu après, oui.
Voilà. Et finalement, le kayak, je suis tombé un peu par hasard dedans. Quand j'ai terminé mes études, j'ai rencontré un champion du monde de kayak.
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai démarré.
D'accord.
Donc, c'était à Lyon. Mm-hmm. Et quand je suis revenu sur Paris, je me suis inscrit dans un club. Et puis là... Je me suis dit, je vais y aller, puis je vais me faire un peu de compétition.
Vous avez fait la compétition ?
Oui, un petit peu, oui.
Et alors, avec quel résultat ?
Un bon niveau national. Hein. J'ai pas de grand titre, mais j'arrive à me sélectionner au championnat de France. Si j'ai un titre collectif de champion de France des clubs, où d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on cumulait les points de tous les compétiteurs. Il y avait des kayaks d'âme, des canoës, etc. Et en fait, ceux qui faisaient la différence, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les meilleurs, c'est ceux qui étaient les moins bons. Moi, je faisais partie des moins bons et c'était les moins bons qui ramenaient les derniers points, qui faisaient la différence pour rentrer sur le podium.
D'accord, voilà. Très bien. Et ensuite, donc, rendre au kayak ce qu'il vous a donné, passer de l'autre côté de la barrière, devenir donc, responsable, dirigeant.
Voilà,
et puis,
c'est ça. Quand je suis revenu travailler sur...
Président de fédé.
Bon, alors pas encore.
Non, mais président de fédé régional, naturellement.
Oui, c'est ça. Et effectivement, quand je suis revenu sur Paris, donc c'était au milieu des années 90, au moment où d'ailleurs je démarre le kayak, je suis très copain avec beaucoup de gens qui travaillent à la fédération. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'embrasse un petit peu le mandat d'élu au sein de la fédération. J'étais trésorier pendant 8 ans. Et puis après, je continue aussi dans le club.
Ouais.
Et puis en parallèle, d'ailleurs, je développe, j'ai un parcours d'entrepreneur. Entrepreneur, j'ai un peu lâché mes mandats.
C'est souvent ça. Hein. Les gens qui entreprennent, ils ont envie de, d'aller plus loin après. Ouais, ouais.
Et puis il y a une dizaine d'années, ça s'est un peu calmé du côté entrepreneuriat. J'ai la chance de pouvoir vendre les sociétés, donc d'être un peu plus libre. Et donc je suis revenu dans le milieu pour prendre cette belle ligue d'Île-de-France.
D'accord. Est-ce que c'est plus difficile de gérer une ligue d'Île-de-France qu'une entreprise? Il y a de l'humain, fatalement.
Alors, c'est pas si simple ça, parce que quand vous êtes dans un comité régional, vous devez à la fois gérer différents profils. Alors, vous avez des salariés. Mm-hmm. On a la chance d'avoir 3 salariés temps plein. Donc là, vous gérez du personnel, comme une petite TPE, vous gérez ça. Mm-hmm. Mais surtout, c'est qu'il faut que vous arriviez à mobiliser l'ensemble des dirigeants qui sont des bénévoles. Donc, c'est plus le pouvoir hiérarchique qui joue. Vous n'avez pas un désordre à donner. C'est la motivation, c'est l'engagement, c'est le projet.
Ouais.
Et ça, c'est une autre
affaire. Il faut savoir convaincre.
Exactement.
C'est une autre affaire.
C'est toute la richesse du bénévolat et de l'engagement.
Mm-hmm.
Et donc, moi, je considère que c'est assez complémentaire avec cette fonction d'entrepreneur où on apprend à être opérationnel, efficace. Et puis là, vous redonnez du sens. Vous redonnez du sens à tout ce que vous faites.
Et aujourd'hui, quelle est l'action dont vous êtes le plus fier en tant que président, à l'heure actuelle, là? Bon, je suppose que vous avez encore plein de projets, plein de...
Voilà. Ce dont je suis plus fier en tant que président, donc à titre personnel, c'est d'avoir réussi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, par la force des choses, il y a des gens qui sont partis de l'équipe, il a fallu recruter toute une équipe, et là je suis très très fier de l'équipe actuelle, qui s'entend très bien. Très complémentaires. Il y a des jeunes qui ont une super envie. Et quand on se retrouve tous entre les élus, donc les bénévoles, les professionnels, j'en ai 3 de droit privé, mais j'ai aussi 2 cas techniques mis à disposition de la fédération. Tout ça fonctionne très bien. Et je suis très fier d'avoir réussi à faire prendre la mayonnaise.
Et c'est vrai, parce que j'en ai été le témoin. Quand je vous ai appelé pour vous joindre, ça a été hyper réactif. En 10 minutes, on me rappelait.
Ouais.
Ah ouais, en 10 minutes, j'étais rappelé. J'ai appelé sur un numéro fixe. Souvent, il y a des numéros de fixe qui ne répondent pas dans des fédérations. Hein. Vous, tout de suite, 10 minutes après, j'avais un coup de fil.
Ouais, ça fonctionne très, très bien.
Ouais, ouais.
Très bien. Je suis très fier de cette équipe.
Ouais, Donc, aujourd'hui, comment on va le canoë kayak? D'abord, est-ce qu'il y a un comité départemental?
Oui, alors.
Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle surtout, avant tout, du comité régional.
On est organisé finalement un peu comme l'État. Vous avez le niveau national, le niveau régional et le niveau départemental, donc comme le comité olympique. Hein. Donc vous avez la fédération qui est sur les engagements nationaux, qui porte notamment le haut niveau. Et ensuite, on est comité régional, l'organe déconcentré. Donc on représente notre fédération sur l'Île-de-France. Et on a en Île-de-France 8 comités départementaux, donc qui sont sur leur territoire en fait. Normalement, les comités départementaux ont plutôt une vocation à être près de leur club. En Île-de-France, comme on a une région qui est plutôt resserrée, on est plutôt, nous, à avoir recentralisé beaucoup de choses et on mutualise beaucoup de choses. Mmh. En revanche, on travaille très, très bien avec nos comités départementaux. On a beaucoup de projets en commun et on les accompagne. Donc, on est plutôt sur des logiques de projets qu'on travaille en commun plutôt que des logiques où chacun est dans son précaré et s'occupe de son niveau. Mmh. Donc, voilà. Donc, les comités départementaux. Alors, vous avez d'autres régions, par exemple, comme la Bretagne, où on va être logé sur presque une confédération. Vous avez une région qui est plutôt, le comité régional, qui est plutôt sur les missions régaliennes, la formation, les championnats régionaux, la politique générale, et des comités départementaux qui sont très forts, qui finalement gèrent toute l'animation sportive de leur département. Alors, il y a aussi la surface.
Nous,
on est plutôt dans une logique d'avoir reconcentré. C'est pour ça que Vers-sur-Marne, on en parlera tout à l'heure, on a concentré beaucoup de moyens sur Vers-sur-Marne pour tout mutualiser. Et puis, tout le monde vient travailler sur le site.
Oui, parce que c'est vrai que l'Île-de-France, au départ, on se dit faire du canoë kayak, c'est compliqué.
Eh bien, détrompez-vous.
Oui.
Parce que le développement du kayak en France... est parti de l'Île-de-France.
Ah oui ?
Oui.
De Seine-et-Marne ?
Brie-sur-Marne.
Le développement des sports de pagaie en France, en fait, c'est les Parisiens. Donc, on parle de ça des années 1900 et quelques, avant-guerre. Et le premier club, qui est francilien, qui s'appelle le CKCF, on en parlait tout à l'heure avec Vanessa.
Ah, c'est pour ça qu'il est tout
court. Qui a 120 ans maintenant, donc... Il est sur la Marne.
Ouais.
Et les précurseurs, ceux qui ont créé la fédération, bon, je suis très fier, c'est de mon club de la SNTM Saint-Maur, Société Nautique du Tour-de-Marne, c'était des gens qui étaient des Parisiens, qui ont développé le... Voilà. Et les gens qui ont ouvert les premières rivières, c'était des Parisiens. Donc, quand vous avez les premiers Jeux Olympiques, on est aux Jeux Olympiques, la première année, on est en sport de démonstration en 1924 à Paris, mais officiellement en compétition en 1936 à Berlin. Vous regardez l'équipe de France, il y a à peu près une douzaine, c'est à 90% des Parisiens. En 56, à Melbourne, il n'y a que des Parisiens, ils sont tous du club de Saint-Maur, et une femme qui est du club d'Avon sur la Seine. Voilà, donc c'est le berceau par là. Alors on est très content qu'après ça soit développé ailleurs, rivières...
Oui, parce qu'on a du mal à imaginer beaucoup de rivières et de cours d'eau pour pratiquer ce sport.
Oui.
Bon, après, le canoë, loisir, ça tout le monde peut en faire. Hein. Il y a des coins de France où de toute façon on fait des randonnées, des balades sans problème. Mais la compétition...
Oui, alors maintenant, nous avons évidemment les parcours artificiels. Hein, mais effectivement, on ne pense pas naturellement que l'Île-de-France, c'est le berceau du canoë-kayak, enfin des sports de pagaie de manière générale, hein, surtout quand on... éventuellement en OCAM, puisqu'on a les trois milieux de pratique, l'OCAM, l'eau vive et la mer.
On va en parler, oui.
La mer, on va oublier.
Bah oui.
Ou alors c'était il y a très longtemps. Ouais. Bien qu'on ait une très forte pratique de mer... En Île-de-France, les gens partent faire beaucoup de mer. Et d'ailleurs, on a beaucoup de personnes très qualifiées qui partent en Normandie, en Bretagne. L'eau vive, à part les bassins artificiels, on n'en a pas vraiment. Et puis l'eau calme, par contre, on en avait. Et on avait également le privilège d'être à côté, à l'époque, ça s'appelait l'Institut National des Sports. Donc, il y avait beaucoup d'athlètes de toute la France qui venaient s'entraîner
à Fontainebleau,
à l'INS.
Là-bas.
Alors, ils venaient s'entraîner à l'époque sur le ponton qui était à Joinville. Et ils sont partis effectivement s'entraîner également à Fontainebleau. Donc c'était pour ça que toute la France venait faire du canoë-kayak sur la Marne. Parce qu'à l'époque, au jeu, on ne faisait que sur le plat.
Ah oui.
Donc on s'entraînait sur la Marne, sur la Seine. Voilà.
Tiens, je vais demander à Théo et puis à Marius le canoë. Vous avez fait un peu fait, non?
Bah, pas trop. Comme tu avais dit, pour des balades, comme ça en Ardèche, etc.
Eh bah oui, c'est le pays là-bas.
Sinon, j'ai pas tellement d'affinité, mais par contre, au JO, justement, j'ai pu découvrir ça et franchement, j'ai été vraiment surpris.
Ouais.
Ça a été quelque chose d'incroyable, moi, j'ai trouvé, personnellement.
Bah, pour ma part, j'en ai eu fait pendant mes études donc de STAPS, et on avait à Nantes, pendant un semestre, la pratique du kayak.
Quand il voulait être prof de gym avant d'être journaliste.
C'est bien. Avant que ça change, mais sur l'Erdre.
Oui, un très beau club. Le club de Nantes est très beau.
C'était super sympa, vous adorez.
Très beau club.
Toi, Vanessa, t'as jamais...
Canoë, j'ai dû en faire un petit peu en loisir, pareil, voilà.
Alors, donc, combien il y a de clubs maintenant en Île-de-France? Et bon, vous parliez de cette mutualisation des différents départements. Quel est le département où il y a le plus de licenciés, de clubs?
Alors...
Vous allez me dire le Val-de-Marne, vous parliez de la Marne.
Non, ouais. Non alors, c'est assez...
Moi, j'en connais un dans les Yvelines.
Lequel?
Rambouillet.
Exact.
Voilà.
Exact.
À l'étang de la Tour, là-bas.
Oui. Voilà. C'est le seul club où j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. Il faut que je prenne rendez-vous.
Mais en plus, ça, il est merveilleux. On peut se balader, on peut y passer le dimanche sans problème.
Club très intéressant parce qu'il a développé une forte pratique sur l'inclusion. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on les a un peu aidés, notamment pour l'acquisition de bateaux et des kayaks biplaces où ils prennent des gens malvoyants.
Ah oui.
Ils les emmènent. Donc, un club intéressant par rapport justement au développement. Donc, pour répondre à votre question, alors, ce n'est pas là où il y a le plus de clubs, mais où je pense qu'en adhésion, ça doit 92, parce qu'il y a trois clubs qui sont regroupés au Pont de Sèvres, dans une superbe base qui est sur l'île Monsieur. Et c'est des clubs qui, il y a une dizaine d'années, le plus gros club faisait 120 adhérents, le deuxième devait en faire une quarantaine dans des Algeco sous le Pont de Sèvres, et le troisième, je crois qu'il n'avait même pas de local, et il devait être une vingtaine. Et quand ils sont regroupés dans une super base, la totalité des trois clubs fait à peu près pas loin ils doivent être pas loin de 600 adhérents.
Ah oui, quand même.
Un peu moins.
Quand même.
Il y a le premier club, le bas, qui fait 300, le deuxième doit faire 150, et puis le troisième qui monte, doit être à 120, 130 et en train de monter. J'ai pas les derniers chiffres là. Voilà, donc comme quoi, quand il y a un bel équipement, ça aide. Ça aide, voilà. Donc là, il y a un gros. Donc les plus gros clubs font 300 adhérents, c'est le plus gros club. Notre moyenne, on a 50 clubs à peu près, une cinquantaine de clubs. La moyenne chez nous, c'est une soixantaine, ça doit être 60 à peu près par club en moyenne, sachant qu'on part du très petit, donc 10 adhérents, donc en gros c'est le club de copains, jusqu'au très grand 300. Et on, en kayak, un gros club, parce qu'on a évidemment des problèmes de stockage, etc. C'est à peu près une centaine d'adhérents. Voilà, donc on a un peu tous équilibré. On a une tendance à être penché un peu à l'est, avec le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Mais la Seine-et-Marne, c'est beaucoup de petits clubs. Et puis après, les Hauts-de-Seine, ça va être des gros clubs. Puis les Yvelines, c'est un peu réparti. On a un très gros club, un club qui est à Mantes. Oui. Comme ils aiment s'appeler, Mantes, ils sont dans le Far West.
Oui.
Là-bas, ils sont plus près de la Normandie que les
Il y a un très bon club d'aviron aussi
exact.
À Mantes. Hein.
Ah oui, oui. Qui a fourni le président de la Fédération d'aviron le président de la Ligue d'aviron qui est de Mantes également.
Ceux qui veulent, après cette émission, venir s'inscrire, rejoindre vos clubs, c'est facile. Il y a les sites internet, je suppose, de tous les clubs, mais peut-être que vous aussi, vous pouvez peut-être les aiguiller vers les bons clubs.
À chaque mode de pratique, y a un club. Si vous avez envie de faire du loisir, vous allez aller. Alors déjà, c'est d'être pas trop loin de chez soi. Donc en général, on va arriver à trouver un club qui va bien. Le plus simple, c'est d'aller sur le site régional parce que tous les clubs sont référencés. Et après, vous pouvez avoir un lien évidemment. En général, ils ont pratiquement tous un site web. Et là, vous voyez un peu les niveaux de pratique. Donc, si vous voulez faire en famille, il y a plutôt des clubs qui font du loisir famille. Plutôt d'emmener vos enfants dans un mode, on va dire, un peu plus sportif. Il faut qu'il y ait une école de pagaie, donc il faut qu'il y ait un cadre. Et puis après, vous pouvez être un adulte qui a envie de faire de la compétition. Et là, après, alors ça dépend. Si vous faites de la compétition en eau calme, la course en ligne, ou en slalom, ou en descente. Et là, tous les clubs ne sont pas exactement au même niveau. Donc là, c'est un peu ce dont vous avez envie de faire. Il va vous diriger vers tel ou tel club. En général, vous avez un club pas très loin de chez vous.
Oui. À quel âge on peut commencer ? 6 ans, 7 ans, non, c'est possible.
Dès que vous savez nager.
Dès tout petit, là.
Ouais. On commence à avoir du matériel pour les petits qui sont pas mal. Donc 6 ans, c'est un peu petit. Mais 8 ans, à 8 ans, on commence. Oui. On commence sans problème.
Mais la condition, c'est de savoir nager quand même. Hein.
Oui, c'est ce qu'on demande. Mais on a une pédagogie au canoë qui est vraiment tournée sur les gamins, sur le plaisir et le ludique. Donc ça, on va être sur l'aisance aquatique, s'amuser. On a une chance d'avoir un nombre de bateaux très variés, ce qui permet à des gamins, on peut les mettre sur une planche de sup, par exemple, de stand-up paddle. On peut les mettre dans un canoë qui est très, très stable. On peut les faire jouer avec un ballon.
Ah oui, dans le canoë.
Oui, ça s'appelle le kayak polo. On peut même mettre un but. C'est comme le water polo, mais en kayak.
Ah oui, d'accord.
On est assez fort en France
c'est
là-dessus.
C'est bien, c'est bien.
Donc ça, les gamins, ils adorent. Ouais. Vous leur mettez un ballon, ils oublient qu'ils sont dans un canoë. Hein. Et vous les voyez, ils ont de l'aisance. Vous les faites dans des écoles de pagaie, vous les faites changer d'un bateau vers l'autre, monter en équipage. Il faut être sur le plaisir. On ne s'entraîne pas, le gamin, on ne s'entraîne pas, on prend le plaisir.
C'est la condition.
Et très très vite, si vous allez dans un club, très vite, on apprend très vite aux gamins à esquimoter, donc être capable dès qu'il commence un peu à pagayer, être dans son bateau, quand il se retourne, être capable tout seul de remonter avec la pagaie. Donc d'esquimoter. Donc ça, c'est parce que dès qu'on est dans le bateau, qu'on se retourne, si on arrive à remonter, ça ouvre un champ ensuite de progression qui est énorme. Pas qu'on nous vive, même sur le plat, vous pouvez tomber dans un bateau instable sur le plat. Et voilà, il faut apprendre et pas avoir peur de l'eau.
Oui, bien sûr, oui.
Donc nous, par exemple, ce qu'on fait sur le stade de Verre, sur l'eau vive, quand on fait à des débutants, on les prend souvent en raft. On fait descendre les gens en raft qu'on n'a jamais fait. Au début, ils sont un peu impressionnés, puis ils commencent à prendre un peu plus. Donc, en général, on termine souvent par une descente de la rivière olympique en nageant. Je peux vous dire que le souvenir
est... Oui.
Parce que là, du coup, ils voient les mouvements d'eau.
Ils ont descendu la rivière olympique, c'est pas rien, quoi.
Le grand souvenir, c'est quand j'ai fait descendre le président de la Chambre de commerce, il m'en parle chaque fois que je le vois. Ouais.
Mais j'avais eu la chance d'être à l'inauguration de Vers-sur-Marne. Il me semble que Roxana Maracineanu...
était descendue en raft.
Ouais, elle est
avec
descendue.
Tony. Ouais, dans je me demande si elle n'est pas Valérie Pécresse aussi dans le même raft.
Oui, Pécresse.
Bon, barré par Tony, ça a de la gueule.
Ils étaient partis. Ils avaient fait la rivière olympique, clairement.
Ils avaient le parcours. Bon, c'était pas tout à fait la même configuration, mais c'était déjà pas mal.
Donc, ces jeunes qui s'inscrivent, ça coûte combien ?
C'est très variable.
Est-ce que c'est un sport qui est cher, le canoë ? Parce que c'est hyper important quand même pour les parents à chaque
fois. Écoutez, moi j'ai fait du tennis dans des clubs. Une adhésion moyenne dans un club de tennis, c'est autour de 500 euros à l'année. peut prendre adulte, hein, 400, 500 euros, voilà.
Et là, on dispose des cours à l'année.
Alors, dans un club de kayak, on va être plutôt fourchette haute autour de 200 euros pour un adulte, une centaine d'euros pour un gamin, mais tout matériel compris. Vous avez les séances, l'encadrement, le matériel, pour certains, les vestiaires, les machins.
Parce que
C'est rien.
Qu'est-ce que le jeune il doit acheter ?
Rien.
Rien, il vient comme ça, on lui prête le...
Avec une tenue de sport, parce qu'au début, on ne va pas l'emmener en rivière et autres. Oui. Puis après, quand il va progresser, il va commencer à s'acheter une tenue étanche, néoprène. Ça ne coûte pas très très cher. Vous allez maintenant... On a une chance maintenant. Avant, c'était compliqué, mais maintenant, vous allez chez Decathlon.
Oui, oui. Je crois qu'on en voit dans les commerces de sport.
Bien sûr, aucun problème. Et puis après, quand il va s'acheter son kawaii, son autre, mais il n'a qu'une tenue de sport... Il va bien, et le tout c'est qu'il faut qu'il change quand il sort du kayak, et puis voilà. Donc non, ça coûte pas très cher ramener finalement au prix de l'équipement et ce qu'on met à disposition.
Et puis maintenant, peut-être aussi avec les nouvelles technologies, il y a l'arrivée un petit peu de la... Il y a l'arrivée de la virtualité, donc on peut met dans une pagaie et dans un bateau et puis on peut la réalité virtuelle.
Alors vous avez rencontré Sébastien Tester, exactement, qui est un ami, puisque c'était l'ancien conseiller technique de l'Île-de-France.
C'est très... pas bien le virtuel.
Non, ça permet de pratiquer un peu quand même.
Ouais. On va l'oublier dans l'apprentissage.
Oui. C'était même ma question, si, en fait. Voilà. Est-ce que c'est dedans ou...
Non, on n'y est pas encore. On est plutôt sur une logique de découverte. Mm-hmm. Donc, par exemple, typiquement, vous étiez au salon. Si vous voulez faire découvrir l'activité à des novices et donner envie d'y aller, ce qui peut être sympa, justement, c'est de faire découvrir la rivière olympique. Mais on fait aussi découvrir des parcours d'Ocam très jolis sur la Seine-et-Marne. On a filmé aussi en 3D, en 360, où vous vous baladez, vous avez l'impression d'être dans l'Amazonie, si vous voulez. Hein. Donc, ça, c'est très bien pour les parents. Le sport, c'est pas qu'un sport dangereux. Et par contre, effectivement, un gamin et même les adultes, hein, parce qu'on fait des découvertes aux gamins, mais alors les adultes, ils disent je veux essayer aussi. Quand vous descendez avec le casque virtuel, c'est très sympa parce que ça vous donne l'envie d'avoir. Maintenant, dans l'apprentissage, on va être plutôt sur un apprentissage sécurisé. On apprend à pagayer, on est sécurisé. Et puis après, voilà. On n'est pas trop encore sur ce matériel-là.
Ce que je m'étais dit, c'est est-ce que ça pouvait être quelque chose un petit peu de complémentaire qui commence à arriver. C'était plus ça la question, parce qu'évidemment, rien ne remplace la pratique classique.
On est plus sur la logique de la découverte, de faire découvrir l'activité, donner envie de venir la pratiquer en réel. En revanche, en termes d'outils connectés ou de matériel, on va dire, qui n'est pas sur l'eau, on va être plutôt sur les machines à pagayer.
D'accord.
Alors, nous, en Île-de-France, on pagaye quasiment toute l'année. Hein. On pagaye jusqu'à 5-10 degrés, c'est pas un problème, on se couvre. Hein. Mais dans certaines, l'hiver, quand il fait vraiment froid, qu'il y a du vent, vous avez des machines à pagayer dans la salle de muscu, dans le vestiaire, et ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, par contre, ça va être un bon complément pour surtout pour ceux qui rentrent dans le début de l'apprentissage, de l'entraînement. Donc ils vont commencer à avoir des premiers cycles d'entraînement. Donc, plutôt de remplacer la muscule, voilà, ils vont enchaîner ce genre de choses. Bon, nos amis de l'aviron, ça fait très longtemps qu'ils ont développé le rameur, en fait, salle.
Oui.
À en faire même des championnats de France. On n'en est pas encore là, nous.
Alors, justement, vous parliez de l'aviron, vous avez des très bons rapports. Hein, avec notre ami qui était venu.
Vous aviez reçu Pedro Ferreira, le président d'un très beau club de la CBB, section
quel
aviron.
Quel club ?
Très gros club, le plus gros club de France. Hein. Ouais. Une personne également très attachante, mais j'ai également très bonne relation avec son président de ligue, Frédéric Andolfi, qui est le président aussi du club de Mantes, un très beau club. Pourquoi ? Parce que nous avons créé, c'était mes prédécesseurs qui avons créé une structure qui s'appelle Nautisme en Île-de-France, qui fait de la formation professionnelle. Et plutôt que faire chacun dans notre coin, on s'est regroupé entre l'aviron, le canoë-kayak, la voile et le ski nautique.
Ah, c'est bien.
Et on a mutualisé nos moyens, et d'ailleurs, on est présent à Vers-sur-Marne.
Exactement.
Et on développe des plein de choses, mais on travaille sur beaucoup de projets ensemble, sur le soutien des clubs, la communication, sur des projets communs. On a travaillé par exemple avec la région Île-de-France sur des job dating, où le matin on faisait des activités, on s'était tous regroupés pour faire des activités aviron, kayak pour des demandeurs d'emploi, et l'après-midi, il y avait les job dating qui se passaient.
Ben c'est important parce que ce sont des sports et des activités qui génèrent des emplois. C'est important.
Il y a une économie.
On l'a vu au salon, hein. il y a des emplois et c'est bien, il y a une économie et on peut vivre de ces sports.
Oui, alors c'est pas simple parce que Alors c'est sûr qu'il y a une économie, c'est pour ça, nous on y croit, hein. C'est pour ça qu'on a créé Nautisme en Île-de-France. Et Et on est convaincu que le développement des clubs, notamment pour développer les écoles de pagaie ou les écoles de rameurs chez les jeunes, ça passe par une professionnalisation des clubs. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on identifie dans notre réseau les jeunes qui ont envie d'en faire leur métier et qu'on leur propose des formations. Par exemple, en Aviron, les deux centres qui forment au métier au brevet professionnel de ces sports d'Aviron, c'est à Vichy et à Vers-sur-Marne. Il n'y en a que deux. Donc voilà, il faut... Au canoë et kayak, on a plusieurs, mais on a énormément de gens qui viennent de toute la France.
Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il faut dire que le Vers-sur-Marne, c'est le Clairefontaine pour le canoë et puis l'aviron, c'est le Marcoussis, c'est le Saint-Quentin.
On aimerait que ça soit ça.
Oui, non, mais je veux dire, c'est le centre, c'est le repère de.
C'est l'enjeu.
Oui,
C'est l'enjeu du site, ouais, effectivement, que ça devienne, ça devienne le Clairefontaine. Pas que de l'aviron des sports nautiques.
Ah d'accord, même le ski nautique par exemple dont on avait parlé, c'est possible.
Mais en tout cas, en aviron, canoë, kayak, on pourrait très bien imaginer que demain...
La voile qui vous rejoigne.
La voile est déjà présente, hein, il y a un club qui est présent, mais la voile est plutôt quand même sur les façades maritimes. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on accueille la nage en eau libre, par exemple. Sur les Jeux, c'était le plan B. Quand il y a eu les problèmes de pollution,
la Seine,
ils avaient envisagé, si ça ne redescendait pas,
d'aller à Vers-sur-Marne.
On pourrait très bien imaginer de faire qu'il y ait du triathlon qui s'entraîne. Vous partez sur la campagne en vélo, vous pouvez courir n'importe
surtout
où.
Surtout que c'est un grand espace naturel.
J'en ai pas parlé avec mes collègues, mais on pourrait imaginer qu'il y a un projet qui est plutôt que le limiter à une discipline qui soit plutôt ouverte sur les sports nautiques au sens large.
Et le fait qu'il y ait un salon, qu'il soit venu, voilà.
C'est une première.
C'est une première. C'est bien, c'est pas bien.
Alors moi, je suis très, comme Fred d'ailleurs, on a les mêmes visions. On est très ouvert à ce que le site s'ouvre sur ce type et qu'il vive. Comme Sébastien Tesseur, il a dû vous dire, on est très.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble avec Sébastien avec l'organisateur Arnaud Gimonet pour voir. Alors, c'était la première édition. On n'a pas été autant présent parce que on voulait voir un peu comment ça se passait aussi puis on a été prévenu très tard en fait par rapport aux activités, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des synergies ou des associations qui se passent entre un organisateur d'un événement de ce type-là très ouvert sur la communication et autres et nous organisateurs d'un événement sportif d'essayer de faire converger ce genre de choses. Maintenant, faut qu'on cale des calendriers, faut plein de choses. On est dans une phase où on apprend à se connaître. La première phase était d'avoir un stand qui était sympathique, notamment de découverte de l'activité à travers les casques virtuels, des machines à pagayer, et puis aussi un très beau plateau de Lego où les gamins peuvent s'initier à ce que c'est qu'une rivière. Et ça, c'était à la fête du sport le dimanche à Rivoli. Mais il n'a pas de désempli. Les gamins, ils ne voulaient plus partir. Ils arrivaient à 15h, les parents devaient les arracher des Lego. Ils jouaient avec des Playmobil et machin, avec des pompes et tout un tas de trucs.
C'est ça, parce que justement, quand j'ai interviewé Sébastien, juste à côté, donc, il y avait ce Playmobil, donc cette activité pour les enfants. Et les enfants, ils étaient à fond dessus. Hein,
la découverte de la rivière.
C'était génial pour eux.
La découverte de la rivière, du courant. C'est une première initiation pour les tout petits. Là, là on va toucher les 5, 7, 8 ans.
C'était l'âge...
Enfin, il y en avait des plus vieux qui venaient aussi. Oui. Et ensuite, ils passaient au casque virtuel.
Voilà.
Mais les parents, ils venaient aussi, c'était au casque virtuel.
Bon, de toute façon, on les a eus en interview, les deux organisateurs. Ils ont promis de remettre ça l'année prochaine, à la même date. Bon, il y avait Céron, on a eu l'occasion d'assister à son concert. C'est bien comme ça, ce mélange de la musique et du sport. Surtout que, un de ses succès avait été repris pendant la cérémonie des Jeux.
C'est vrai.
C'est surtout pour ça qu'il avait été invité.
Bien sûr. Il faut... D'ailleurs, c'est une de nos priorités de notre projet de développement régional qui était de développer les activités de loisirs. On a identifié justement de pouvoir organiser des événements sportifs de masse, alors que ce soit compétitif ou non compétitif, ou on va dire récréatif, inclusif, c'est-à-dire qu'en fait, qui s'ouvre au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est de s'associer aussi avec des moments, concerts, comme par exemple, c'était organisé, alors c'est pas chez nous, mais c'était à Pau, les champions du monde de 2017, je crois, de slalom sur le site de Pau, les sites des Estanguets. Le soir, il y avait un gros concert et qui venait compléter mmh. finalement l'offre sportive. Mmh. Et il y avait autant de monde qui venait au concert, qui venait voir les compétitions. Oui. Donc c'est important de faire vivre le site et surtout pas de se scléroser dans oui. uniquement l'activité sportive.
Alors c'est ce que fait ça. Une ville estonienne comme ce week-end, sort pas les eaux là. Eux, c'est la fête de la montagne. Il y avait Yannick Noah qui était là hier soir.
Il y avait
Yannick Noah. Ben, vous voyez, ce mélange ouais, de entre donc, la montagne et puis...
Non, il faut s'ouvrir sur son territoire, sur autre chose que le sport, pour justement faire découvrir.
Et il y avait des démonstrations tiens, de chiens de traîneau et de biathlon. Donc, donc les clubs franciliens, est-ce qu'il y a encore des demandes pour en créer?
Alors, nous, notre grosse difficulté, c'est justement de créer un club... La capacité à créer des clubs. Pourquoi ? Le problème, c'est qu'il faut du foncier, parce qu'il faut stocker des bateaux, il faut avoir de l'espace, et que ça, c'est pas simple. Mm-hmm. Et puis la troisième problématique qu'on a, comme l'aviron d'ailleurs, c'est l'accès à l'eau. Mm-hmm. C'est-à-dire que...
C'est réglementé, puis c'est pas partout.
Voilà,
possible,
donc si vous cumulez le fait d'avoir un local, un accès à l'eau, bon, ça devient... Et puis les bénévoles locaux qui veulent bien s'en occuper, ça devient complexe. Nous, ça, c'est un des gros enjeux, en tout cas en Île-de-France, c'est d'accompagner, nous, nos clubs, je parle au niveau comité régional, justement pour améliorer la capacité des clubs. Je crois moyennement à l'augmentation du nombre de clubs. Je crois plutôt à s'appuyer sur ceux qui ont déjà un accès à l'eau, mais qui n'ont pas des bonnes conditions nécessairement d'accès, pour travailler avec eux et avec surtout leur collectivité, pour faire en sorte qu'ils aient un équipement de qualité. Parce qu'on ne va pas multiplier les accès. Hein. L'histoire ne va pas dans ce sens-là. Par contre, s'appuyer là où il y a déjà un club et qu'on le rénove, qu'on en fasse une belle base, ça, par contre, il y a un enjeu important.
D'accord. On marque une petite pause musicale. Hein. On peut quand même écouter la musique sur une embarcation. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, émission que naturellement vous pourrez réécouter en podcast, hein, émission qu'on vous présente donc chaque lundi de 19h30, à 20h30. Je sais que vous êtes très très nombreux à réécouter nos podcasts, hein, ça avait été le cas avec le badminton il y a 15 jours, bien la semaine dernière aussi, on avait parlé gymnastique et patinage. Hein.
Exactement, voilà. Philippe.
Alors, comme promis, on va diffuser les interviews sur le salon donc, de la GNIS, hein, et on va commencer avec un para-athlète qu'on a rencontré. Alors, c'est vrai que les Jeux Olympiques, il y a des épreuves de surf, il n'y en a pas donc, au niveau paralympique. On va écouter, donc, il était en démonstration quand on l'a rencontré, Guillaume Collin, donc, le champion français de parasurf. Bon, je suis avec Guillaume Collin, champion de parasurf. Guillaume, d'abord un petit mot sur ce salon de la glisse qui commence aujourd'hui.
Ben là, je découvre les lieux, c'est magnifique, le lieu est top, on a de la chance d'avoir le soleil, le plan d'eau est incroyable. On est vraiment super bien sur ces lieux-là.
C'est une très bonne initiative, hein, de faire connaître un petit peu ces différents sports de glisse.
Ben alors l'initiative, moi je l'adore parce que ces sports de glisse, c'est ce qui m'anime. Donc effectivement, partager ça avec le grand public, avec tout le monde, j'adore partager. Donc c'est une magnifique initiative et de se retrouver aussi sur ce plan d'eau olympique et de profiter de l'inertie post-olympique pour profiter et être sur ce lieu, c'est top. Ouais.
Bon, vous allez faire quelques démonstrations, non ?
J'ai tout le matos dans la voiture, dans le van. Là, je suis monté de Montpellier hier avec tout le matos. Donc, alors là, c'est très calme aujourd'hui. J'espère qu'il y a un petit peu de vent qui va se lever pour pouvoir faire des démonstrations et montrer un petit peu la pratique du wingfoil assis.
Voilà, alors racontez-nous un petit peu votre itinéraire, comment on en arrive à faire du parasurf. Enfin, je crois, un accident à partir de 2015. Hein.
C'est ça, accident depuis 2015. Moi, j'ai toujours été animé par le sport de manière générale dans ma vie, par les sports de glisse en particulier, les sports nautiques. Donc, avant mon accident, je faisais du surf, de la planche à voile, du kitesurf. J'ai eu mon accident en 2015 qui m'a rendu paraplégique, donc en fauteuil roulant. Et à partir de là, en fait, j'ai choisi de me reconstruire par le sport jusqu'à performer et devenir champion du monde de parasurf. Également par l'innovation jusqu'à inventer cette nouvelle pratique de wingfoil avec un handicap en position assise. Et voilà, ces sports-là, ça a vraiment été des énergies fortes pour me permettre de rebondir et retrouver des sensations de glisse qui me font vibrer, donc je me régale.
Oui, on peut considérer que vous êtes un sportif de haut niveau aujourd'hui, champion du monde, hein, notamment.
Alors, même officiellement, je suis sur la liste des sportifs de haut niveau, à la liste ministérielle, grâce à mon titre de champion du monde de parasurf, effectivement. Ouais.
Bon, ça aide, il y a des aides quand même, quand on est comme vous dans parasurf. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes pour le sport handicap, hein, beaucoup de sportifs qui sont confrontés à eux-mêmes. Vous, c'est votre cas ?
C'est mon cas. C'est pas facile de trouver des partenaires, des sponsors pour aller sur les compétitions, hein, le circuit mondial, c'est des compétitions un peu partout dans le monde, évidemment. C'est pas facile de joindre les deux bouts financièrement pour arriver à y participer et trouver les partenaires qui vont également trouver un intérêt à investir dans ce projet parce que voilà, c'est du parasport, donc c'est pas encore assez médiatisé et puis c'est du parasurf en particulier. Donc c'est
qu'un jour ça devienne olympique, c'est ça ?
Il faudrait que ça devienne paralympique. Le surf est olympique, mais n'est pas encore paralympique et ne le sera pas encore en 2028 à Los Angeles, malheureusement. Donc la fenêtre d'ouverture, c'est potentiellement 2032 au mieux.
Bon, vous comptez quand même y aller jusqu'en 2032, non ?
Ah ben moi, tant que je suis en vie, je serai sur l'eau et sur la glisse. Donc si je suis pas trop vieux et si j'ai encore le niveau, oui, on ira. Donc,
vous avez une activité professionnelle aussi en parallèle ?
Alors moi, je suis ingénieur de formation, mais depuis l'année dernière, j'ai un peu changé de voie et maintenant, j'interviens en entreprise en tant que conférencier pour parler de mon parcours, de son apprentissage surtout. Je ne parle pas uniquement de ce qui m'est arrivé, mais de ce que j'en ai fait. Je fais des parallèles avec les valeurs des entreprises, comment on réagit face à un changement, une perturbation ou une épreuve. Avoir l'audace de perception des avantages, quelles que soient les circonstances, qui permet ensuite de donner la force et l'impact de l'action.
Est-ce que vous pensez que le regard quand même change depuis quelques années ? On a vu avec le succès des Paralympiques notamment.
Ah, il y a eu un gros succès des Paralympiques. Après, je ne sais pas si c'est encore trop tôt pour voir s'il y a un effet. C'est vrai qu'il y a de l'inertie qui peut être vécue comme tombée très rapidement après les Jeux. Il y a eu cette grosse simulation pendant les Jeux. On a l'impression que ça tombe un peu derrière ensuite. J'espère que ça va repartir. En tout cas, je croise les doigts pour parce qu'il y a de quoi faire.
C'est un beau message d'optimisme. La vie, elle peut continuer, elle peut être belle, quelles que soient ses circonstances.
Exactement. Là, on est absolument d'accord. C'est vrai qu'on peut avoir des préjugés ou des clichés négatifs que j'avais avant mon accident moi-même, hein, parce que j'avais pas la j'étais pas sensibilisé, j'avais pas ces repères et ces modèles. Et j'avais ce cliché du handicap un peu passif, mais maintenant, après 10 ans de fauteuil roulant et de parcours et de reconstruction, je sais, et je le crie haut et fort, que oui, évidemment, la vie est belle et il y a énormément de choses à faire, même avec des capacités diminuées.
Très bien, merci Guillaume, bonne démonstration.
Avec plaisir, bonne journée.
Voilà, merci à Guillaume. À maintenant, on a rencontré un responsable d'association aussi, Cédric. Il est responsable de l'association Flying Sky Boarding. C'est bien comme ça que le caritatif...
Bien sûr.
Oui.
Oui, bien sûr. Et il ne faut pas qu'on oublie que ce soit le surf, que ce soit l'aviron, ou le kayak, ou la voile, on est dans un environnement naturel. Mm-hmm. Donc c'est important qu'on le préserve et qu'on agisse aussi, alors que ce soit pour le nettoyage, pour le préserver, pour le respecter.
D'accord.
Donc effectivement, c'est très bien ces associations.
Alors, on va l'écouter. Alors je suis avec Cédric qui va nous présenter son association, parce que le monde de la voile et ses sports dérivés peuvent aussi servir pour des œuvres caritatives.
Oui, bonjour. Je suis ravi d'être sur le Glisse & Van Paris Show pour présenter l'association. Nous, notre objectif, c'est de promouvoir le kitesurf sous l'angle du sport santé pour accompagner des malades en post-cancer, que ce soit sur des enfants ou des femmes. Et on va ouvrir à partir de cette année nos séjours sur d'autres pathologies, des ALD, des affections de longue durée, l'épuisement professionnel ou le burn-out. Et il nous reste des places sur le séjour du mois d'octobre. Donc j'espère qu'on va remplir en étant sur le salon ici à Paris.
Alors, présentez, dites-nous d'abord un peu le nom de votre association. Je crois qu'elle date de 2023.
Oui, c'est ça. L'association Flying Chicks Skateboarding. Un petit clin d'œil au poussin volant, parce qu'initialement, on s'adressait aux enfants. L'association, je l'ai créée, l'idée est née en 2023 pour les 10 ans de greffe de ma fille qui a eu une leucémie petite.
Et alors, les premiers résultats sont bons. Il y a des bons effets sur toutes les personnes qui ont été touchées par la maladie.
Oui, ouais, complètement, qu'on soit chez l'enfant ou chez le public adulte, la recherche scientifique montre que l'activité sportive, la reprise, aide à la fois pendant les traitements à mieux encaisser les traitements qui sont lourds, aide dans la reconstruction sur les aspects psychologiques ou physiques, en travaillant les muscles profonds, la proprioception, et on travaille beaucoup, beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi, en touchant un sport qu'on imaginait comme inaccessible.
Oui, pourquoi ce sport? C'est un sport de passion au début pour vous, ou c'est venu comme ça par accident, ou alors c'est à cause de ses belles vertus?
Moi je suis originaire du milieu de la planche à voile quand j'étais gamin, donc c'est une passion les sports de glisse. Je suis venu au kite il y a un peu plus de 10 ans, formé par l'UCPA, et du coup j'avais volonté de transmettre cette passion à un public fragilisé, et je suis convaincu des bienfaits du rapport aux éléments, le vent, l'eau, sur tout un tas de pathologies. Quand on court, on peut réfléchir à toutes les difficultés de la vie. Quand on est sur un kite en train de piloter un cerf-volant, on est vraiment dans l'instant présent et ça fait du bien.
Et alors, ça s'adresse à toute la France? Tout le monde peut venir rejoindre votre association?
Oui, complètement. Le siège de l'association va être maintenant en Normandie. Avant, il était à Grenoble. Mais on peut accueillir des enfants, des adultes de toute la France sur nos séjours qui se déroulent un peu partout en France. Donc, j'espère aussi ouvrir des points d'organisation de séjour sur les façades atlantiques, sur la Manche, comme on le fait déjà sur la Méditerranée.
Ouais, cela a un coût quand même, non? Ou il y a des aides?
Oui, alors pour l'instant, au niveau des subventions, c'est compliqué parce qu'on a ce rayonnement national. Je demande notamment aux participantes adultes de collecter de leur côté des dons pour réunir la participation. On est sur un coût moyen de 1 200 € nécessaire pour un stage d'une semaine. Donc c'est une somme, c'est une activité qui reste onéreuse et donc inaccessible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mécénat, qu'on a besoin d'accéder à des subventions publiques ou privées pour permettre de voir éclore ce projet qui est un peu unique en France, de faire qualité des gens qui ont eu des événements de vie compliqués.
Et vous avez été Impact 2024 à travers les Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier.
C'est vrai, depuis le départ, c'est une aventure complètement dingue, faite de rencontres humaines et de beaux challenges. On a été reconnu association d'intérêt général à caractère social, donc ça ouvre des avantages fiscaux. On a été finaliste d'appel à projet au Mondial du Vent à Leucate en 2024. Et on a eu le label Impact 2024, catégorie sport santé, donc c'est un petit label qui fait plaisir.
Voilà, un beau prolongement sur ce site olympique. Hein.
Exactement, la boucle est bouclée. On a fait une conférence à Lyon il y a quelques mois. Cet après-midi à 15h, je serai en conférence à Paris. Donc c'est une nouvelle étape dans l'aventure.
Très bien, pour finir, donc on va rappeler votre association et votre site internet pour venir éventuellement vous rejoindre.
Bien sûr. Alors, on est présent sur tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. On a un site internet flying-chicks.com où vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos actions et nos séjours.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, troisième intervenant. Donc, on voulait s'intéresser un petit peu plus au système un petit peu économique, hein, la planche à voile et puis tous ces dérivés. C'est un secteur qui marche très bien. C'est ce que nous a dit en tout cas un des employés de la société Starboard, Shag. Et vous allez voir, il parle très bien de son sport. Bon, alors je suis avec Shag, un des exposants de ce salon de la glisse. Shag, spécialisé surtout dans la planche à voile.
C'est ça, en fait, je travaille pour le groupe Starboard, qui est spécialiste donc, de la wing, du windsurf, du sup, également de toutes les disciplines du foil. Donc Starboard, ça a été créé maintenant dans les années 90. C'est un des pionniers à la base de la planche à voile qui s'est diversifié ensuite en sup et maintenant sur la wing. Donc c'est un pionnier en termes d'innovation et de qualité des produits. Donc c'est une entreprise qui ne cesse d'innover chaque année et qui pousse l'industrie vers le haut. Donc là actuellement on est au Glisseven Paris Show justement pour présenter toute la gamme 2026. Donc en avant-première, c'est la première fois qu'elles sont présentées en France. Donc pour tout ce qui est planche de wing foil, les nouvelles ailes Starboard Wing, donc ça c'est une grande nouveauté. Elles ont été vues qu'une seule fois aux États-Unis pour l'instant dans le monde. Donc c'est la première fois qu'on peut les voir en France et quasiment dans le monde. Donc c'est super. Donc,
alors, si je comprends bien, c'est un secteur d'activité qui se porte très bien, quoi.
Bah, c'est un secteur d'activité comme toutes les entreprises du nautisme qui n'est pas dans une bonne phase. Le groupe Starboard s'en sort plutôt bien par rapport à leur innovation et leur ancrage depuis des années dans le monde du windsurf et du sup, où Starboard est leader en windsurf et en sup, donc ce qui permet de vraiment tirer la marque vers le haut par rapport à d'autres entreprises du secteur qui sont peut-être un petit peu moins connues, qui peuvent souffrir vraiment de cette période. Nous, on a pu bénéficier grâce au Covid et à l'arrivée de nouveaux sports comme la wing, d'une recrudescence de pratiquants sur tout ce qui est wing foil, au détriment de la planche à voile et du kite. Mais on sent un mouvement de renouveau sur le windsurf. En fait, les gens ont beaucoup investi pour la wing au départ pour pouvoir s'équiper, ont mis leur argent dedans et maintenant on recommence à réacheter du matos de planche à voile, de sup et ils font maintenant ces différentes pratiques.
De quoi sont faits tous ces matériaux? Je suppose que ça a beaucoup évolué comme dans tous les sports.
C'est ça, en fait il y a énormément d'innovations, donc il y a plusieurs types de carbone. Starboard utilise donc ce qu'ils appellent le blue carbone, aussi du bois. En fait chaque planche a quasiment sa construction bois, donc qui a une construction un petit peu différente avec bois apparent. Donc c'est avec du pin australien, une matière super légère mais rigide. Donc par exemple les gammes comme les Futura, les Isondic, donc qui sont les super planches de windsurf les plus connues de la gamme, sont construites dans ces deux constructions, donc la blue carbone et la carbone reflex, donc justement pour pouvoir avoir cette performance mais également cette construction wood qui est plus accessible en termes de tarifs.
Ça coûte combien en moyenne, hein? Bon, il y a ceux qui font de la compétition puis ceux qui vont le faire pour se faire plaisir.
Bien sûr. Alors pour le windsurf, on est aux alentours entre 3000 et 2000 euros pour une planche neuve.
Ça dure un petit bout de temps.
Et ça dure un paquet de temps. Nous, les gens qui viennent nous voir sur les salons nous disent « Ah, j'ai une planche de 2010, de 2006 » et qui leur tiennent, qui n'ont toujours pas bougé justement grâce à cette construction qui est reconnue et qui est super solide, durable dans le temps. C'est aussi l'ADN de la marque, c'est la qualité. Donc on sait que c'est peut-être un prix au début, mais c'est plus un investissement plus qu'une dépense. Donc ça va être un peu les tarifs pour le windsurf. Ensuite, pour la wing, on va être aux alentours de 1000-2000 euros pour les planches les plus chères. Donc c'est un sport qui est beaucoup plus accessible en termes de tarifs. Forcément, les planches sont plus courtes, donc il y a moins de matériaux à prévoir. Et après, on a des subs, donc avec plusieurs gammes. Starboard est pionnier dans tout ce qui est board gonflable, planche gonflable avec des doubles chambres, justement pour avoir une construction super rigide et durable dans le temps. On sait que pas mal de marques ont essayé de se lancer sur le paddle avec des paddles à très bas prix, mais qui dure finalement moins d'un été, alors qu'un paddle gonflable starboard, mais on le tient quasiment 10 ans avec une utilisation hyper récurrente. Donc c'est vrai que c'est là qu'est le gap avec des nouvelles technologies comme sur la nouvelle planche de course, donc la All-Star Airline, où justement on va avoir un filin qui vient rigidifier l'ensemble de la board, justement pour rajouter encore plus de tension dans la planche. Donc quand on peut avoir une planche molle en gonflable, là on va vraiment avoir une planche super rigide pour pouvoir concurrencer les meilleurs en board rigide. Donc voilà.
Eh ben, très bien, merci en tout cas pour ces bons détails et puis beau salon, belle journée.
Merci beaucoup à vous, bonne journée.
Voilà, bon, et puis merci à Tchaï. Alors, on parlait justement de François et puis Arnaud, les organisateurs, François Flotté et Arnaud Simonet, qui étaient après le concert de Serenor. Serenor, il était impossible de l'interviewer, hein. Les gens du spectacle, c'est compliqué, il avait un contrat d'exclusivité, mais eux, par contre, nous, c'était intéressant, c'était d'avoir l'opinion des deux responsables, et eux étaient particulièrement ravis et prêts déjà à repartir pour la saison prochaine. Allez, je suis avec les deux organisateurs, Arnaud et François. Arnaud, François, quelle belle soirée avec Céron.
Une soirée comme on n'en a jamais autant rêvé, c'est fabuleux. La communauté est bien présente sur la rail, la van life, la glisse, l'immobility et surtout toute la communauté est présente pour ce concert exceptionnel de Céron ce soir à Vers-sur-Marne. Donc on est ravis. Je vais laisser Arnaud compléter mes mots, mais on est vraiment, après ce premier concert, une soirée exceptionnelle. Merci à tous.
C'est le mélange du sport et de la musique finalement.
C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait rassembler tout un écosystème vertueux et que du fun, du kiff. Et je crois que là, la preuve ce soir, on l'a eu. Donc vraiment, on est ravis.
Et puis sur un site prestigieux. Hein.
Voilà, l'héritage vivant des JO. On y est, c'est l'héritage vivant des JO.
Oui, oui. Alors, il reste encore une journée. Quel bilan peut-on déjà tirer? La météo n'a pas été trop désobligeante?
Non, on est habitué, on est avec des gens de l'outdoor, donc en fait il n'y a pas de sujet, il nous faut du vent, du soleil, de la pluie, on a l'habitude de cela. Et en plus, demain on a une super journée qui s'annonce, plein d'activités sur l'eau, sur terre, donc on recommande à tout le monde d'être là présent demain.
Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter ce salon?
Rassembler les communautés de l'outdoor sur un site olympique un an après, c'est fabuleux. Et surtout avoir une grande famille autour de l'outdoor, des sports de glisse, de la van life, de l'immobilité qui pour nous tient à cœur. Et vraiment, je pense que c'est une première édition qui est pleine de promesses pour l'année prochaine. Rendez-vous en septembre prochain sur le stade nautique olympique de Vers-sur-Marne.
Alors justement, est-ce qu'il y a déjà des petites idées pour l'an prochain, des petites innovations?
Ouais, l'année prochaine, la même date, à un jour près. Voilà, et on va faire encore mieux. Ça va être difficile, mais on va faire encore mieux.
D'accord. Merci en tout cas, et belle soirée.
Merci à vous, c'est top.
Voilà, et puis dernière interview, Vanessa, toi tu es allée le dimanche, donc voir un petit peu, découvrir, hein, parce que c'était ta première.
C'était ma première, j'avais jamais été sur ce site donc de Vers-sur-Marne et je l'ai découvert avec grand plaisir. Mmh. On est vraiment dans un milieu très naturel alors qu'on est vraiment en Île-de-France, donc on est vraiment dépaysé. Et puis j'ai pu voir différentes activités nautiques, j'ai notamment découvert plusieurs sports. Et donc, j'ai interviewé Sébastien Tester, conseiller technique national en charge des événements à la Fédération française de canoë-kayak. On va l'écouter tout de suite. On est ici au salon Gliss & Van, au stade nautique olympique de Vers-sur-Marne. Et je suis avec Sébastien Tester, cadre technique de la Fédération française de canoë-kayak. Bonjour Sébastien. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire votre présence ici? Quel est le but?
Bonjour, et écoutez, ouais, c'était tout simplement normal que la Fédération de canoë et des sports de pagaie soit ici présente sur le stade olympique, puisque le siège de la Fédération française de canoë et kayak est situé sur le stade olympique à Vers-sur-Marne, juste à l'entrée. Et c'est un site qu'on connaît particulièrement bien, parce qu'on est à la fois présent au quotidien ici sur l'entraînement des équipes de France, des équipes olympiques et des jeunes espoirs français du canoë et kayak, à la fois en eau calme et en eau vive, qui s'entraînent régulièrement ici. Et puis aussi parce que la Fédération produit des événements de très haut niveau, comme des championnats d'Europe, des du monde ou tout simplement aussi des événements loisirs. Et l'occasion de ce village du Gliss Van Paris Show était aussi important pour nous de montrer la présence de la fédération et aussi de proposer des activités pour le grand public.
Alors je vois devant nous il y a des enfants qui s'amusent et qui découvrent un peu le canoë kayak à travers un circuit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette activité que vous proposez et les autres activités que vous proposez aussi pour les adultes ici sur ce salon.
Ouais, alors on a essayé de proposer des choses assez sympas. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'exposition sur ce type de salon. Effectivement, on a développé un. Alors c'est pas nous qui avons développé le circuit, c'est une marque bien connue de jouets qui a proposé ça. Mais nous, en fait, on se l'est approprié et on en a fait toute une histoire autour de la promotion du kayak et du canoë. On sensibilise les enfants à la fois à la différence et la connaissance du canoë et du kayak entre ces deux disciplines, mais aussi on en profite pour sensibiliser aux problématiques de l'environnement, la gestion de l'eau. Donc c'est un moyen de mettre le kayak sous une autre facette à la disposition des enfants, des plus jeunes. Ils sont dans le jeu avec leurs parents. Et puis on a accompagné ce circuit avec plein d'autres activités à côté où on est à la fois sur des machines à pagayer qui permettent en fait aux pratiquants, aux jeunes, aux débutants, aux loisirs de découvrir la sensation de ce que c'est de mettre un coup de pagaie dans l'eau, donc à terre, tout ça avec des machines dédiées. Et puis on a aussi proposé l'expérience en VR avec de la réalité augmentée. Réalité virtuelle, on propose en fait aux gens de s'immerger dans la peau d'un de nos championnes ou de champions le fait de pouvoir descendre la rivière olympique. Donc ils sont immergés pendant 1 minute 30, ils descendent le rapide du stade olympique de Vers-sur-Marne. Donc voilà, on essaye de proposer des choses assez accessibles qui mettent un peu le côté gamification du canoë et du kayak et pour permettre en fait l'envie des gens d'aller plus loin, d'aller franchir la porte peut-être d'un club pour demain s'initier vraiment sur l'eau. Là sur le glisse Van, on n'a pas mis d'activités nautiques parce qu'il y a déjà pas mal d'activités autres avec d'autres fédérations et d'autres associations. Voilà, nous on le fait largement toute l'année au sein de nos 700 clubs. Donc voilà, on était plutôt à tester une activité terrestre pour que le public puisse s'amuser autour de notre discipline.
Alors justement, vous êtes ici toute l'année puisque le siège de la fédération se trouve ici. Comment vous organisez un peu l'activité fédérale ici, je dirais aussi bien des stages que la pratique pour justement stimuler cette pratique tout au long de l'année?
Alors déjà comme je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir les pôles d'excellence avec les équipes de France. Donc toute l'année, il y a une activité d'entraînement qui s'y passe. On a tous les meilleurs Français qui viennent s'entraîner. Après, ce site, il a une particularité, c'est que c'est quand même un haut lieu du canoë kayak et des sports de pagaie. Et donc c'est ouvert à tous les clubs, à tous nos licenciés. Donc il y a des stages qui sont mis en place par les organes déconcentrés de la fédération, comme le comité régional Île-de-France de canoë qui est présent sur place, ou le comité départemental de canoë kayak de Seine-et-Marne. Oui, les deux entités associatives font des stages de formation pour apprendre le métier de moniteur de canoë ou des métiers d'entraîneur. Donc il y a ce genre de choses qui sont proposées, ou alors des événements qui sont portés par la fédération, des événements majeurs comme des Coupes du Monde ou des Championnats d'Europe, où on essaye systématiquement autour de la compétition de pouvoir permettre au grand public de s'initier. On fait des activités découvertes de la Marne, des activités d'initiation sur le lac. Voilà, ça c'est le travail que l'on fait à la fédération. Et puis après, toute l'expertise du fait de la maison des sports de pagaie présente sur le site, en fait on réunit tous nos experts du canoë kayak, on développe beaucoup de concepts qu'on peut après déployer sur l'ensemble du territoire français. Vu qu'à la fédération il y a tous les champs métiers, la formation, le développement des sites de pratique, l'entraînement, l'organisation d'événements. Et en fait on peut aussi créer des concepts sur ce site olympique pour après les déployer sur d'autres territoires en France. Voilà, et aussi sur le littoral, parce que les activités qu'on peut faire en eau calme, on peut aussi des fois les mettre en place sur les bords de mer. Donc voilà, on essaye de profiter de ce site olympique aussi pour développer de l'innovation. Et voilà, c'est ce qui est intéressant, ce qu'on fait au quotidien ici.
Que vous ont apporté de plus les Jeux Olympiques de Paris 2024?
On va dire que les Jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, en tout cas, ça nous a conforté dans le fait que notre activité, on s'est rendu compte qu'elle était quand même très populaire, qu'elle était accessible. Ça nous a conforté aussi dans le fait de dire continuer d'investir de l'énergie dans le développement, parce qu'on sait que derrière, ça prend. Le pays est un pays quand même qui est sportif. On a vu tout cet élan de mobilisation qu'il y a eu autour du sport et voilà, les valeurs que le sport représente. En tout cas, nous, ça nous motive encore plus pour aller... pour aller plus loin, pour développer de nouveaux concepts. Et ce qui anime la passion de tous les gens qui travaillent à la fédération, c'est de faire en sorte que cette pratique se développe et qu'elle soit accessible. Donc on travaille aussi avec les constructeurs, on travaille avec les sites de pratique. Voilà, ça, les Jeux ont été pour nous quelque part un accélérateur, je veux dire, de la motivation à entreprendre le développement de notre pratique.
Et dernière question, comment on organise la détection et en quoi l'Île-de-France est un vivier de talents importants?
L'organisation de la détection, elle se fait parce qu'on a un réseau de clubs. Déjà, rien qu'en Ile-de-France, il y a une cinquantaine de clubs où, pour plus d'un tiers, ils accueillent des scolaires tout au long de l'année. Donc, il y a des cycles de progression qui sont faits travailler en étroite collaboration avec l'éducation nationale. Et ces clubs-là sont aussi encadrés par des moniteurs formés par la fédération. Donc, il y a tout un écosystème de formation continue au travers de la pratique scolaire qui permet aussi... pour les meilleurs, de pouvoir aussi un peu éclore de ce système. Et puis on a toute la structuration du sport scolaire au travers de l'Union nationale du sport scolaire, de l'UNSS. On travaille aussi ensemble pour développer des actions parallèles, donc des petits événements sympas organisés au niveau local qui permettent aux enfants de pouvoir aller plus loin. Et puis bien sûr, après, une fois ils sont repérés, ils vont dans les clubs et on accompagne les clubs sur la montée en charge de ces jeunes athlètes. Et l'Île-de-France est un terroir de la pratique du canoë-kayak, puisque le premier club de canoë a été créé dans le Val-de-Marne, plus particulièrement à Brie-sur-Marne, sur la Marne. Et c'est là que la pratique s'est un peu structurée. Donc on est quand même une terre de pagaie en Île-de-France. Et on a quand même beaucoup de jeunes champions qui sont issus de ces clubs franciliens.
Merci beaucoup.
Voilà, Sébastien, vous le connaissez bien.
Ah, très bien, puisque c'était le conseiller technique régional en Île-de-France. Avant qu'il parte à la fédération, je l'ai croisé un an et je le connais depuis 20 ans quasiment, puisque je l'ai connu aussi au niveau national.
Alors on parlait du coût économique à travers les interviews qu'on a donc entendues. C'est un sport qui est cher, le canoë, parce que bon, on a parlé de l'équipement, mais l'embarcation, elle a beaucoup changé. C'est à la charge du pratiquant, les clubs fournissent, ça se passe comment ?
En général, quand vous venez pratiquer, on va dire, en initiation, voire en loisir, le club fournit le matériel. Donc, quand vous payez votre licence et votre adhésion à la structure, donc quand vous payez une cotisation au club, vous avez la licence qui est incluse dedans, en général. Vous ne savez même pas que vous payez le prix que vous payez à la licence. Et pratiquement, tout est compris. Ce qui coûte cher, c'est dès que vous allez commencer à entrer dans le cursus de compétition. Puisque là, ce sont des bateaux individuels. Vous faites du slalom ou de la descente, votre bateau, il est calé pour vous, il a la forme que vous voulez, il faut vous acheter des pagaies. Donc ça, c'est pour le matériel. Mais ce qui coûte cher aussi, c'est les déplacements. Se déplacer à droite, à gauche, parce que vous commencez à faire des courses. Alors les courses régionales, ça va, c'est pas trop cher. En revanche, quand vous commencez à être sur le circuit national, ça commence à coûter cher.
Ça coûte combien un kayak, en gros, en moyenne?
Alors, ça dépend. Vous pouvez démarrer sur un kayak, on va dire, de loisir autour de 1500 euros, quelque chose comme ça. Et puis, alors, par contre, dès que vous commencez à être... Alors, il y en a du moins cher. Vous êtes à 500, 600 euros.
Ça a changé maintenant.
En polyéthylène, trouver des kayaks, mais à 500, 600 euros. Dans les clubs, ils les touchent à peu près à ces prix-là.
Et ça dure pour un petit bout de temps, quand même.
Oui, bien sûr.
On ne fait pas une saison avec.
Bien sûr. Mais vous savez, ça, il faut le comparer, par exemple, au VTT.
Oui.
C'est-à-dire, vous avez un premier VTT, premier prix, vous allez chez Decathlon, vous achetez le premier vélo, il va être à 400, 500 euros. Puis, les tops de gamme, vous allez être à 6000 euros. C'est à peu près pareil au kayak. C'est-à-dire que vous avez un bateau top de gamme en carbone, nid d'abeille, c'est à 6000 euros, mais là, il faut savoir naviguer dedans et pas taper. Voilà, celui-là, il est top. Et puis, vous avez le kayak en polyéthylène ou le gonflable. Vous achetez un ET8, je ne sais même pas combien c'est chez Decathlon, mais je pense que c'est moins de 500 euros, largement.
Et dans une saison, on a besoin de combien de kayaks? 2-3?
Alors, en compétition, en général, ça dépend. Moi, quand je faisais du kayak, je l'amortissais sur 3 ans sans problème. J'ai beaucoup progressé en résine pour reboucher les trous. Mais en général, dès que vous êtes sur du haut niveau ou un bon niveau national, en général, vous avez un bateau pour la saison. Mais souvent, vous le revendez à la fin de la saison, justement, à des clubs. Amorti. Justement, les clubs pour les jeunes vont prendre un bateau qui a fait une saison, qui est un peu moins performant, et puis vous allez racheter un neuf, etc. Donc vous faites tourner, voilà.
Et comment on prend le kayak? Est-ce que c'est comme au ski, en fonction de sa taille, de son poids?
Oui, c'est ça. Alors ça dépend si vous faites de l'eau calme ou de l'eau vive, mais effectivement, par exemple, en eau calme, sur les bateaux de vitesse, là, qui sont très étroits, très instables, en fonction de votre poids, vous allez enfoncer le bateau dans l'eau ou pas. Donc là, il faut une portance. Donc vous avez des bateaux qui vont jusqu'à certains poids. En général, on a souvent une limite qui est autour de 60-70 kg, ce qui permet aux filles d'ailleurs de prendre les bateaux d'en dessous. Et puis les garçons, on va être plutôt en course en ligne, plutôt à plus de 70 kg, parce qu'il y a un peu de masse musculaire. Et là, vous avez des bateaux qui permettent de supporter le poids pour pas qu'ils s'enfoncent trop dans l'eau, justement, qu'ils soient ralentis. Donc, vous avez, voilà. Et après, je vous dirais, ça dépend aussi beaucoup du rapport que vous voulez avoir entre l'équilibre dans le bateau, je parle des bateaux de vitesse, et le poids. C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux être dans un bateau peut-être un peu plus lourd, mais dans lequel vous tenez bien, plutôt qu'un bateau qui est peut-être très léger, très instable, mais que vous risquez de perdre de l'énergie à le garder. Mm-hmm. Donc en fait, il faut surtout acheter le bateau dans lequel on est bien. Mm-hmm. C'est surtout celui-là.
Ça va à quelle vitesse ?
Alors, ça va à quelle vitesse ?
C'est, alors, la vitesse de pointe quand on est en pleine compétition, par exemple.
Il faudrait refaire le calcul, mais je sais quand on faisait de la descente, c'est à peu près du 15 km/h dans le sens du courant. Mm-hmm. Mais alors, il faudrait faire le calcul, vous faites 500 mètres à peu près en 1,30. Donc, pour recalculer la vitesse, je ne l'ai pas en tête là.
D'accord. Et on est obligé de se spécialiser très tôt, très jeune ?
Non, surtout pas.
Ah bon ?
Surtout pas. Nous, ce qu'on prône, en tout cas en Île-de-France, dans la formation, c'est la polyvalence de pratique. Mmh. Les gamins, il faut qu'ils fassent de tout. Qu'ils fassent du canoë.
Du kayak.
Donc, kayak. Ouais.
On va rappeler la différence, moi je le sais, mais on va rappeler la différence pour le grand public.
Alors, on a une activité qui est très riche, Donc, quand on dit canoë-kayak, ce n'est pas un bateau. C'est un sport de pagaie, et il y a des bateaux qu'on appelle canoë. Alors, on est historiquement à genoux dedans, et on pagaie d'un seul côté, avec une pagaie simple. Donc, il y a une palque d'un côté. Et le kayak, on est plutôt assis. Enfin, on est assis, et on pagaie avec une pagaie double des deux côtés. Alors, si je la schématise, parce que l'histoire, ce n'est pas tout à fait ça, mais en gros, le canoë, c'est Pocahontas, et puis le kayak, c'est Anouk, l'Eskimo. Mais l'arrêté de l'histoire, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, le canoë, il vient de plein d'autres régions, et les Esquimaux, ils faisaient du canoë. Ils allaient pêcher le phoque avec des canoës. Et on voyait des gens qui faisaient des Indiens qui avec une pagaie double. Bon, tout ça, c'était très mélangé. Ouais. Voilà. Donc, pour revenir à votre question de départ, c'est que le gamin, ce qu'on veut, c'est d'abord qu'il s'amuse. Donc, il veut qu'il ait de l'aisance aquatique, qu'il s'amuse dans le bateau. Donc, il pagaie un peu dans toutes les embarcations. On oublie la compétition jusqu'à un certain âge, du jeu. Nous, on a une animation qui s'appelle un challenge d'avenir. On a des gamins entre 6 et 8, 9 ans. On prend même ceux qui démarrent plus tard, on les rentre dans ce challenge-là. C'est du jeu. Ils vont jouer avec un ballon. Ils vont faire un espèce de kayak cross dans des bateaux. Ils partent à 4, ils ne savent même pas qu'ils sont dans un kayak cross. Ils naviguent, vont tourner autour d'une bouée et tout va bien. Et puis après, les gamins, quand ils commencent à vouloir rentrer dans une logique compétitive, pas tous, on ne pousse pas nécessairement ça, là, ils vont avoir envie plutôt de faire de l'eau vive ou de faire de l'eau calme. Il y en a qui ont peur en eau vive. Ils vont faire de l'eau calme. Il y en a qui aiment bien aller dans les rouleaux. Ils vont aller dans les rouleaux. Faut aller à Versemann. Vous voyez, les gamins, ils ont 10-12 ans. Vous les voyez naviguer. Ils s'amusent. Ils savent esquimoter. On l'apprend tout de suite à esquimoter pour qu'ils n'aient pas peur de l'eau, en fait. Donc, on démystifie ça. Donc, le jeu, le plaisir. Et puis, plus tard, vers 14-15 ans, on apprend à s'entraîner. Mmh. Nicolas Gestin, il a commencé à s'entraîner à 15-16 ans. Tony, il s'est amusé, il faisait des rivières avec son père.
Alors justement, Nicolas Gestin l'avait interviewé l'année dernière sur Radio France, lors des Demain le Sport. Ça vous a attiré des pratiquants nouveaux, les bons résultats et ces médailles ? Parce que fatalement, ça...
Eh bien, on est l'exception qui confirme la règle des fédérations. Pas du tout.
On a pas même du tout.
Non, pas du tout.
Vous avez vécu ça sur le site des Jeux.
Ouais, non, non. Ouais. On a. Alors,
c'est étonnant quand même. Hein
ouais. Non, pas complètement.
Parce que, habituellement, bon, on pas sait que ça draine des pratiquants dans tous les sports où il y a eu des médailles.
Alors, de tous les Jeux, que ce soit en France ou pas en France, on n'a jamais eu post-JO, même avec des résultats exceptionnels, on n'a jamais eu une augmentation des pratiquants, sauf éventuellement dans les clubs des athlètes qui ont eu des résultats où là, ça a pu un peu grossir. Je pense qu'à Quimperlé, chez Nico Gestin, je pense que là, ils ont eu une augmentation, mais ça reste marginal. Et après les Jeux de Paris, pas du tout. Alors, les raisons, elles sont principalement doubles. C'est que nos clubs... on a des gros capacités d'accueil. Non, mais capacité d'accueil.
Était déjà au top au niveau des pratiquants. Quoi.
Non, puis on a pas la capacité d'accueil. Il faut du matériel et autres. Donc, on ne sait pas que. Enfin, on est limité. Et la deuxième chose, c'est que pour les Jeux de Paris, on est sur les rentrées de septembre. Alors là, ça devrait être pas mauvais, je pense, un peu meilleur. C'est que le temps, la météo, a énormément d'impact sur les reprises de licence.
Oh, d'accord.
Ouais. Ah ouais. Ouais. Et 2024, c'est terrible. Le mois de septembre a été pourri.
Oui, bon, non, je mais m'en rappelle plus, mais bon.
Moi non plus, mais je peux vous le dire parce que les clubs me disent.
Il y avait des paralympiques, mais alors
voilà.
Après,
et il y a beaucoup dans la première quinzaine où les gens ils vont dans les différentes associations. Bah, s'il fait beau, qu'on voit un club de kayak, on va rentrer, ça te plaît, bah oui, tu fais un essai, poum, c'est parti. S'il fait pas beau, il vient même pas cogner au club. Et 2024, alors ça explique pas tout, hein.
Oui.
Mais nous, c'est pour ça que notre priorité, c'est vraiment les capacités d'accueil de nos clubs. Ce n'est pas le cas au tennis de table. Ils ont cru monstrueux. Voilà.
Ouais, et puis bon, ils sont toujours enfermés, donc il n'y a pas de problème.
Ouais. Voilà, donc nous, on a très peu d'impact. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais.
Bon, vous parliez de Tony Estanguet. On l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup côtoyé pendant les Jeux. C'était vraiment la personne idéale pour mener Paris 2024.
Ouais.└װ└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││******││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└►
Toujours le sang froid, jamais des... Et pourtant, Dieu sait, on a vu sur les images, hein, il n'a pas dû beaucoup dormir, notamment dans les trois jours.
L'inauguration.
Ah oui, je crois que s'il a eu 5 heures de sommeil en 3 jours, ouais.
Alors oui, on en est très fiers, mais nous on le connaît. Hein.
On le connaît depuis longtemps,
donc on savait que c'était l'homme de la situation. Et il a su, comme je vous le disais tout à l'heure, il a su... montrer sur la journée où il a commencé, la météo s'est dégradée juste avant la cérémonie d'ouverture.
Toute sa capacité
à gérer la pression, à prendre les bonnes décisions.
Il y avait un plan B, mais bon.
Voilà. C'était comme quand il était athlète. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne se passait pas bien. Voilà. Il était capable de.
C'est intéressant
de gérer.
Parce que voilà, il a retranscrit dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle qu'a suivi les qualités qu'il a eues quand il était athlète. C'est et c'est ça la force du sport.
Mais il n'était pas tout seul.
Hein, niveau. Oui, bien sûr. Étienne Taubois.
Notamment avec Étienne Taubois et puis son aussi Michael Alozzo. Oui, il avait une très belle équipe autour de lui. Mais il a eu la qualité, très très tôt, de bien s'entourer et de créer ce noyau. Les personnes, c'est lui qui les a choisies.
Oui, je sais, ils ont passé des entretiens comme...
Il tenait autant d'importance dans la confiance qu'il donnait à son équipe que dans le... Voilà. Donc, il a vraiment créé une équipe très solidaire et c'est ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné. Et ça ne nous a pas surpris. Nous.
Oui. Bon, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Vous le voyez plus aller vers des activités au CIO. Hein.
Personne ne sait trop. Je pense qu'en ce moment, il passe beaucoup de temps avec ses enfants. Je l'ai croisé à Bourg-Saint-Maurice et venu suivre ses gamins. D'ailleurs, il a son fils qui s'appelle Titouan, qui est champion du monde junior en slalom. Il double du canoë et du kayak. Il va se spécialiser après. Donc, il le suit. Il passe du temps, beaucoup de temps avec ses enfants. Et puis, effectivement, je pense qu'il vient de se faire élire au CIO sur un mandat individuel. Je pense que sa place, elle est à l'international. C'est quelqu'un qui... Il ne veut pas encore le matérialiser, mais on voit bien qu'il se positionne sur ce type de mandat. Et puis, je pense qu'il ne reniera pas ses valeurs. Donc, il ira là aussi où il a une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté de travail. Et voilà.
Oui, parce qu'on parlait de
la politique, je ne suis pas inquiet pour lui.
Je ne vois pas ministre, moi.
Non. Moi non plus. Moi non plus.
Peut-être pas plus mal.
Comment vous voyez l'évolution, justement, de votre sport dans les années qui viennent? Parce qu'il y a des problèmes de budget, fatalement.
Ouais.
On en parle. Paris 2024, c'est très, très, très compliqué. Hein,
C'est très compliqué. Vous avez certainement lu, il y avait une lettre ouverte de la présidente du Amélie Oudéa-Castéra qui a bien résumé, c'est-à-dire que le sport a déjà fait un effort conséquent après les Jeux. On redemande une baisse très conséquente sur un tout petit budget. Ouais. C'est-à-dire que l'économie qui va être faite sur le sport n'a aucun impact sur le budget général. Mais surtout, désolant et regrettable, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte que chaque fois qu'on fait, on met 1 euro, on investit 1 euro dans le sport. En gros, les études montrent qu'on en économise 13 euros sur la santé, sur le social, sur tout un tas de sujets. Et que ça, actuellement, ce n'est pas une problématique. Et le mouvement du sport, contrairement à d'autres milieux, je pense notamment à la culture est bien meilleure que nous sur sa capacité à mobiliser les politiques, justement, pour préserver un certain nombre de choses. Et nous, on est presque trop gentils.
Ouais, mais enfin, est-ce que c'est pas un peu de bling-bling? Ça fait bien d'aller au truc culturel, comme ça.
Je ne vais pas critiquer la culture. Ils font leur boulot.
On est trop... Donc, c'est facile de donner de l'argent, des budgets, et puis voilà, quoi.
Mais il faut... C'est important que... Alors, Amélie, qui était ministre,
elle connaît bien le système. Hein. Elle connaît bien le système. Hein. Bah oui.
Et effectivement, on va voir comment va se positionner le comité olympique, parce que l'enjeu, il est là. Après, on va voir ce que va devenir le nouveau gouvernement, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va devenir.
Ouais. Oui, oui. Mm-hmm. Et je vais me permettre de rebondir sur ce que vous disiez, parce que c'était en février, au moment où justement, il y avait déjà eu la première coupure du budget. Et donc, au CNOSF, on y était, juste à côté. C'était, il me semble, David Lapartien qui avait dit « Si ça avait été la culture, il se serait couché sur les rails. » Je reprends ses propos. Oui. Et ben, donc,
on est des trop bons élèves, on est des élèves dociles.
Ça souligne exactement ce que vous dites. Et moi, je sais que c'est ce que je disais l'année dernière. C'est-à-dire que quand on pratique une activité sportive, c'est plein de pathologies en moins ou de risques réduits. Donc, finalement... On a peut-être le sentiment que c'est tout ça est mal évalué dans les hauts sphères, ou alors ils le savent, mais finalement ils ferment les yeux, parce que quand même, ils ne peuvent pas ignorer que les impacts du sport.
Alors, tous ne l'ignorent pas. Hein. Vous avez, alors, oui. Vous avez par exemple, je n'ai plus son nom, le président du département du 93 pour la fête du sport, il s'est clairement exprimé. Il a boycotté le.
C'est pas Stéphane Troussel, non ?
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Stéphane Troussel. On l'a interviewé souvent, oui.
Et Stéphane Troussel, il fait énormément
très bien.
Pour le sport et la cohésion sociale dans le 93, dans le 9-3.
Tout à fait, oui. Dans le 9-3.
On n'est pas si loin de Paris, on est juste de l'autre côté du périph. Non, j'aime beaucoup, moi, les actions qui sont faites dans le sport dans ce département. On a d'ailleurs un club, nous, on a deux clubs, Montreuil et Sevran, qui travaillent énormément avec les collectivités sur la cohésion sociale. Vous avez... moi, je vais remercier aussi la région Île-de-France, parce que suite au jeu... Vous avez un nombre de collectivités régionales qui ont coupé, elles n'avaient pas trop le choix certaines, hein, leur budget sport. Je pense au Pays de la Loire notamment, qui est une des premières régions sportives, hein, qui ont coupé. Vous avez des clubs qui sont en train de fermer ou des comités régionaux qui licencient leurs cadres, etc. La région Île-de-France a investi énormément dans le sport, sur les équipements. Et en tout cas, pour l'instant, nous continuons de nous accompagner. Nous, les comités régionaux, les budgets ont été maintenus, se sont battus parce que derrière, ils ont bien compris que nous, comités régionaux, on était porteurs du développement du sport et de la cohésion sociale et de l'activité sur le territoire. Donc, on a encore quelques... Voilà. Donc, on croise les doigts. En tout cas, eux ont bien intégré que c'était un vecteur. Maintenant, il y a le sujet de Vert pour voir comment on positionne Vert. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, sur l'accompagnement du mouvement sportif, en tout cas, ils sont pour l'instant... au rendez-vous enfin moi je vais les remercier parce que le comité régional n'existerait pas sans la région.
Et Vert, il va devoir évoluer.
Oui, c'est un vrai questionnement, c'est-à-dire que le site, vous l'avez vu, c'est un très beau site architecturalement. En revanche, il a énormément dans sa conception pas intégré un certain nombre de composants. Alors pour les jeux, le COJO a compensé plein de choses, ils l'ont installé. Maintenant, sur l'héritage de ce qu'on veut en faire, c'est un vrai questionnement actuellement que se pose la région de la destination du site. Est-ce qu'on veut en faire un Clairefontaine ou est-ce qu'on veut redestiner le site plutôt à un objet social, ce qui était l'objet des îles de loisirs de départ. On voit bien que faire cohabiter du grand public toute l'année avec des équipes de haut niveau qui s'entraînent et autres, c'est pas si simple que ça. Parce que nous, par exemple, quand on organise, Sébastien, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais quand on organise une Coupe du Monde et encore plus un championnat du monde...
Il y en aura une l'année prochaine, exactement, à Vers-sur-Marne.
Voilà, c'est ce bien, mais en gros, pendant 10 jours, vous avez pu, même pendant 15 jours quasiment, vous n'avez plus du grand public qui vient naviguer sur le bassin, puisque les équipes viennent s'entraîner et autres. En Coupe du Monde, un peu moins, ils arrivent une semaine avant, mais un championnat du monde, pendant 15 jours, nous, les championnats du monde sont en Australie, l'équipe, elle est partie... Quand elle est partie début septembre, mais toutes les équipes font pareil, pendant 3 semaines, ils naviguent sur le bassin, donc c'est réservé. Donc ça veut dire qu'en général, c'est au beau jour, ça veut dire que vous naviguez plus le grand public. Et voilà, vous faites donc il faut à un moment donné intégrer ça, savoir ce qu'on veut en faire. C'est un vrai enjeu. La région a intégré la problématique, mais maintenant, faut y répondre politiquement sur la destination. En tout cas, je ne suis pas trop inquiet dans le sens où on a deux fédérations qui sont présentes. La fédération de canoë a son siège à l'entrée, qui est juste à l'extérieur de l'île de Loisirs.
J'aurais pu l'apercevoir.
Voilà. La Fédération d'Aviron a son siège à Joinville, mais a fait venir le Centre national d'entraînement qui était à Lyon. Donc il y a une volonté du mouvement sportif de prendre place à l'intérieur. Maintenant, il faut que se mette au standard des sites internationaux de renom.
Allez, deuxième page musicale. Ensuite, on va parler d'un sport que vous aimez bien, c'est le foot. Hein ? Allez, la page musicale et ensuite, on se retrouve pour l'actu du ballon.
T'as détruit ma vie. Détruit ma vie. Ma vie. Est-ce que t'y penses? Qu'est-ce que ça te fait? De m'avoir pris jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit. Triste vie. Je me suis fait des films. J'ai tapé dans le mille. Mais j'ai préféré me dire que c'était qu'un film. Je peux plus dormir quand je t'imagine. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie.
Ma vie.
T'as détruit ma vie.
Ma vie.
T'as détruit ma vie.
Ma vie.
Ma vie. Quelqu'un de malhonnête, dis-moi que c'est le fruit d'une erreur que tu regrettes. Que tu voulais me faire subir un supplice, une injustice pour que je te dise à quel point je t'aime. Est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je veux même pas le savoir. J'essaie d'être le plus calme et serein possible. J'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie.
Ma vie.
Ma vie.
Allez, comme prévu maintenant, donc on va parler de la page foot. Alors sans Stéphane de Zanclos, qu'on ne pourra pas retrouver donc, ce lundi, mais on l'aura probablement dès la semaine prochaine. Tiens, la semaine prochaine, on est à Meudon. Oui. Mais en avant, l'actu foot, on va parler de l'actu omnisport, l'actu hors foot. Il y avait une abondante actu et on connaît notamment le vainqueur de la Ryder Cup, puisque les résultats sont tombés cette nuit. Ça a été assez houleux, hein?
Ça a été compliqué, hein. Ouais. Ce week-end, ça avait lieu la 45e édition de la Ryder Cup. Alors bon, pendant trois jours de compétition, la team Europe affronte la team USA au golf. Mm-hmm. Et si pendant les deux premiers jours, il n'y a pas eu photo, l'Europe dominait largement les Américains, ce dimanche, le trophée a bien failli nous échapper. Ouais. Parce que jusqu'au bout, la team USA s'est accrochée et a bien failli faire l'exploit. Pardon. Score final 15-13 seulement. Hein.
Il y a mais des joueurs qui ont été sifflés, ouais, ce qui est rare pour le golf.
Ça, hein. ça a été très houleux au niveau du public. Mais par contre, un magnifique moment de sport avec des très beaux, ouais, coups.
C'est parce que Donald Trump est venu, non, pour ça.
Peut-être, ouais, il y a eu quelques chambrages. Hein. Il y a eu quelques, ouais, chambrages après. Ouais, voilà. On passe maintenant au cyclisme, les championnats
on
du monde.
On parlait de Pogacar
exactement,
la semaine dernière,
qui, hein, se déroulait au, ouais, Rwanda. Et très, très peu de suspense, hein, finalement. C'est Tadej Pogacar qui, ouais, l'emporte et conserve son titre. Ouais. Comme l'année dernière, le Slovène il s'est imposé sur un raid solitaire, hein, sans, mm-hmm, problème. Remco Evenepoel et Ben Haley complètent le podium.
Evenepoel qui avait gagné le contre-la-montre la semaine dernière. Et chez les femmes, malheureusement,
Pauline
a terminé grande
favorite, mais c'est à la surprise générale, c'est la Canadienne Madguelaine Vallière qui s'est imposée. Juliette Labou, elle, termine 13e et Pauline Ferrand-Prévot seulement 16e. On passe en moto et ça y est, c'est fait. Marc Marquez remporte son 7e titre de champion du monde ce dimanche grâce à une 2e place derrière Francesco Bagnaia, son coéquipier au Grand Prix du Japon. L'Espagnol, il a désormais 201 points d'avance sur son dauphin et frère Alex Marquez, donc un écart irrattrapable, qui offre ce 7e titre de champion du monde. Mm-hmm. Et il égale l'Italien Valentino Rossi.
Immense champion de moto, une légende.
Un petit mot de paranatation maintenant, les mondiaux de Singapour s'achevaient samedi et l'équipe de France a brillé parce qu'elle a rapporté 15 médailles tout de même, dont 3 en or.
Qu'à Paris. 14 à Paris.
Exactement, c'est après ces 14 médailles remportées au JO, l'équipe de France poursuit quand même sa magnifique lancée. On avait aussi de la course à pied ce week-end la 46e
Paris-Versailles.
Exactement, 46e édition du parcours Paris-Versailles, donc 25 000 personnes au total qui participent à la course.
Oui, justement, la Côte des Gardes.
Exactement.
C'est un des hauts lieux.
Oui, la Côte des Gardes, ça grimpe bien.
Ah oui, c'est pour ça qu'on en parle. Ils partent devant la Tour Eiffel, ils arrivent devant le château de Versailles, c'est mythique.
16 km, Tour Eiffel, château de Versailles. Bon, petit mot sur les vainqueurs côté hommes. Faustin Guingon a terminé la course en 50 minutes et 13 secondes. Et chez les femmes, c'est Mélodie Julien qui avait déjà gagné l'année dernière, qui conserve donc son titre avec un chrono de 53 minutes et 3 secondes.
D'accord.
Et surtout, bravo à tous les participants parce que c'est une magnifique course. On enchaîne maintenant en sport collectif avec du rugby. Fin de cette Coupe du monde féminine et une triste 4e place pour nos Françaises qui n'ont pas su battre les doubles tenants du titre, tout de même néo-zélandaises en petite finale. Ouais. Alors la compétition des Bleus, elle s'achève quand même sur un lourd score, 45 à 26.
En plus.
Et la finale entre l'Angleterre et le Canada n'a laissé elle aussi que peu de suspense. Les Anglaises se sont imposées facilement 31 à 13 et s'adjugent leur 33. Et troisième titre planétaire tout de même pour les Anglais.
Alors, ce qui est fou quand même, on en parlait la semaine dernière, c'est que ça n'a pas été l'année des sport co, parce que nos filles du basket, elles sont quatrièmes de l'Euro, elles finissent au pied du podium. Les filles du rugby, quatrièmes du mondial au pied du podium. Bon, les filles du volley quand même, bon, ça va, quart de finale au championnat du monde. Par contre, les hommes au volley éliminés en phase de poule et le basket éliminé en 8e. Alors bon, ça n'a pas été vraiment...
Ça n'a pas trop marché, cette année.
Les années post-olympiques, ça n'a pas trop marché, mais c'est pas très grave, Eric, elles se refont une santé, équipes bientôt.
En top 14, quatrième journée, le Stade français a littéralement giflé l'Union Bordeaux-Bègles sur sa pelouse 28 à 7. Et
Bordeaux-Bègles battu largement par le Stade français.
Ah, ça rigole pas. Il remonte à la 7e place du classement et de son côté, le Racing 92 poursuit sa belle lancée. S'est imposé face à Clermont 43 à 31 et est actuellement quatrième au championnat. Maintenant, basket, c'est à la reprise en Betclic Elite.
C'est reparti.
Pour la première journée, le Paris Basket s'est imposé face à Gravelines Dunkerque 109 à 66. À noter aussi la victoire de Monaco contre Le Portel 84 à 63. Ou encore la victoire du promu Boulazac face à Saint-Quentin 94 à 76. En handball maintenant, la première division, le PSG est toujours en tête du classement après sa victoire face à Aix en Provence 37 à 24. Mais nos Parisiens ont une nouvelle fois perdu en Ligue des Champions.
Ils ont perdu 2 matchs sur 3, je crois.
C'est exactement ça. Cette fois-ci sur le fil face à Zegeg, 31 à 29. Donc ils sont 5e du groupe B. Et un petit mot sur notre autre club français engagé en Ligue des Champions. Le HBC Nantes a enfin gagné son premier match mardi.
Tu devrais être content.
Je suis content, Mardi dernier face aux Norvégiens de Kolstad, 39 à 24. Donc on espère qu'ils vont enfin lancer leur compétition. Chez les femmes, 4e journée de Division 1 et le Paris 92 fait grise mine. Nouvelle défaite. Cette fois-ci face à Toulon, score final 27 à 18. Les Parisiennes sont avant-dernières au classement avec 0 victoire et elles attendent toujours le match du Havre mercredi prochain. Et on termine ce journal des sports avec du volley, la fin des mondiaux qui se déroulaient à Manille aux Philippines. Les Italiens tenants du titre ont dominé une surprenante équipe bulgare 3-7 à 1 et un 5e titre planétaire pour les Italiens.
C'est un
déjà.
Doublé italien parce que les filles du volley avaient été championnes.
J'y viens Philippe, un nouveau succès qui arrive 3 semaines après seulement la victoire des Italiennes dans ces mêmes championnats du monde. Ce qui finit très concrètement de placer l'Italie en tant que nation numéro 1 du volley international.
On n'entend rien du tout, là.
Pour les Bulgares, c'était la première fois que...
Exactement.
Que la Bulgarie...
Non, ça ne marche pas. On n'entend rien du tout, vous avez bien. Non, on n'entend rien. Bon, de tout, voilà. Allez, le point foot maintenant avec Marius.
Eh bien, on a été servi en tout cas.
Alors, Marius,
dernière.
On va d'abord... revenir un petit peu sur Ballon d'Or,
parce que
c'était le fil rouge de notre émission la semaine dernière. Dembélé donc qui s'impose devant Yamal et puis troisième Vitinha. Pour moi, c'est un classement qui est logique.
Moi, je trouve, si je peux dire, Hakimi, je trouve qu'il a été peut-être un petit peu
placé. Avec Vitinha, ouais, d'accord. Voilà. Mais pour la victoire finale, il n'y a pas photo. Il répondait à tous les critères.
Et en plus, ça n'a pas été aussi serré qu'on pensait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'écart entre Dembélé et Lamine Yamal.
Ça ne me surprend pas. Hein. Oui. Voilà. Eric, vous, l'ancien footballeur. Ouais. Non, mais le ballon d'or, ça.
Ah, bah oui. C'est que, je crois
c'était
a...
Dembélé quand même, non a... Sixième français.
Oui, il était annoncé. Ouais. A priori, oui, c'est ça. C'était beaucoup moins serré.
Ouais.
Et oui, puis, oui. C'est quand même pas mal.
Non, mais moi, ça ne me surprend pas. Parce que c'est vrai que quand on regardait tous les critères, tous les stats qu'il avait...
Puis quand on regarde, quand même...
Ouais. Il avait tout répondu au niveau donc des victoires avec son équipe, les performances individuelles, le comportement. Puis, il n'y a pas photo, quoi.
J'ai écouté quand il est interviewé. Il a pleuré en plus. Très attachant. Très attachant. Très émouvant.
En plus, ce qui est bien, c'est que bon, c'est le sixième français à gagner un ballon d'or, mais c'est le deuxième avec un club français.
Oui.
Il faut remonter à JPP, à Marseille en 91 pour que celui qui est récompensé du ballon d'or le soit aussi à travers un club français.
Ouais.
Voilà. On va un tout petit peu avant, je voudrais qu'on parle des Coupes d'Europe.
On a eu l'Europa League.
Oui, parce que bon, on a eu un petit mea culpa, on va rectifier. On parlait de Strasbourg la semaine dernière. Strasbourg, il rentre en lice que cette semaine,
bien sûr, en même temps
que donc, la suite des compétitions de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Tu vas nous donner quand même les résultats des trois clubs français. Donc, il y a deux victoires et une défaite.
Deux victoires et une défaite. Alors, pour Nice, ça sera la défaite 2-1 contre l'AS Roma.
Comme d'habitude,
ça continue la série noire pour Nice. Par contre, Lille, qui a gagné contre, excusez-moi de la prononciation,
Brønnøysund,
un club norvégien.
C'est bien, tu l'as bien prononcé.
Voilà, ça va alors.
2-1.
Ouais, donc, victoire 2-1. Ouais. Et victoire de Lyon contre Utrecht. Donc, à l'extérieur, faut noter. 1-0, c'était un match plutôt serré, mais une frappe de loin.
Mais Lyon, c'est une équipe de Ligue Europa quand même. Hein, donc, c'est peut-être l'équipe qui peut aller, de toutes les équipes là, peut-être un petit peu plus loin que les autres dans la compétition. On en parlait, je crois.
La semaine dernière.
Allez, on va venir maintenant à la Ligue 1.
En Ligue 1, on a eu, pour cette sixième journée, en ouverture, on a eu Strasbourg-Marseille. Marseille qui continue ses séries de victoires. On promettait pour Marseille une série noire.
Parce que la semaine dernière, on a aussi un fil rouge, c'était Classico. Marseille qui a battu
Marseille Paris Saint-Germain
1-0 après 14 ans. Sans victoire. Et Marseille qui continue sur sa lancée.
Victoire 2-1 à Strasbourg, plus. Donc après, on a eu un Lorient-Monaco, victoire 3-1 de Lorient aussi, donc grosse surprise.
Ce qui montre quand même l'inconstance des Monégasques.
Et bien sûr, Après, on a eu un Toulouse-Nantes, score de parité 2-2.
Oui.
PSG qui se relance contre Auxerre, victoire 2-0.
Ouais, mais il y a un petit quand même, c'est qu'il y a beaucoup de blessés.
Eh oui, l'infirmerie, on va y revenir.
Vitinha, Gvara, ça commence à faire beaucoup.
Après Doué et puis Dembélé, ça commence à faire beaucoup.
Après, on a eu un Nice, Paris FC, match
plutôt
nul.
Bien.
Plutôt pas partout, mal pour le Paris FC.
Ouais.
À noter sur ce match qu'il y a eu une interruption de match. Évidemment, on rappelle que tout ce qui est cri homophobe, raciste, etc., c'est à éviter. Il faut arrêter ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on a eu un Angers-Brest.
Alors, je te coupe parce que j'ai lu sur l'équipe aujourd'hui que je crois que le centre d'entraînement, il y a eu des dégradations au centre d'entraînement à Orly, là, sur le Paris FC. Là.
Ah oui ?
Il y a eu
quelques dégradations de voitures qui étaient présentes sur le parking, mais rien de notable.
C'est totalement OK.
Voilà. Allez, on revient au championnat.
Mais sinon, Lyon-Lille.
Lyon
qui allait gagner.
Match important, donc Lyon qui confirme aussi sa belle semaine.
Cependant, on a eu Metz-Le Havre, un petit 0-0. Et pareil, Rennes-Lens, 0-0 aussi.
Oui, et puis Brest qui va gagner dans un match important à Angers, 2-0.
Oui.
Voilà. Donc, on va rappeler le classement. C'est PSG-Lyon avec 15 points. Troisième, Marseille, Monaco, Strasbourg, juste derrière avec 12 points. Et puis ensuite, on a sixième, Lille-Lens, 10 points. Et on a le ventre mou du Paris FC avec Brest, Toulouse, 11e. Nice, Lorient. Donc, ils sont 9e avec 7 points. Et puis, on commence déjà à avoir des premiers signes pour les équipes qui vont se battre pour le maintien. C'est pratiquement toujours les mêmes.
Hein.
15e, Le Havre, Nantes et Angers avec 5 points. Et le 18e, c'est Metz, 2 points. Le foot, là, vous intéresse vous avez beaucoup.
Je suis.
Vous avez un club de cœur ? Vous aimez tous les sports, vous m'avez dit.
Moi, j'aime tous les sports.
Quand
j'étais jeune, c'était le PSG.
Et le Paris FC, c'est bien quand même.
Moi, c'était le Red Star, j'aimais bien.
Justement, parler, Marius, du Red Star.
C'est
la Ligue 2. Il y avait deux journées.
On a eu deux journées, une mardi et une ce week-end. Alors, pour le Red Star, malheureusement, c'est une défaite mardi contre 3. 3-1 justement.
Ouais, ouais. Et ils jouent ce soir hein, pour le.
Et ils jouent ce soir aussi journée, pour la 8e journée. Mm-hmm. Sinon, on a eu un Amiens Saint-Étienne, victoire de Saint-Étienne 1-0. Mm-hmm. Pau contre Laval, victoire de Pau.
Ah, il tourne bien pour
oui,
moi cette année.
C'est pas mal.
Ouais, ouais, ouais.
Reims Clermont, victoire 4-1 de Reims. Mm-hmm. Montpellier Boulogne-sur-Mer, c'est victoire de Boulogne-sur-Mer à Montpellier.
Mm-hmm. Combien
3-1. D'accord. 3-1. Mmh. Alors, Annecy et Nancy, c'est Nancy qui remporte 2-1 à l'extérieur.
Oui.
Ensuite, il y a eu Bastia et Rodez, victoire de Rodez 3-2.
Bastia, ça s'arrange pas.
Bastia, c'est catastrophique, je veux le dire. Ensuite, on a eu Guingamp, Dunkerque, victoire de Guingamp 2-1. Et Le Mans, Grenoble, victoire 1-0 de Le Mans.
D'accord. Et pour cette huitième journée, là, pour la journée
8e,
de...
Et la huitième, trois encore qui continue à gagner et qui est en tête de la Ligue 2, on en reviendra après. Donc, victoire 3-1 contre Annecy. Rodez-Pau, encore Pau qui vient gagner à Rodez 2-1. On a eu Nancy-Reims, victoire 1-0 de Reims.
Dire que ça aurait été un match de Ligue 1 il y a quelques années. Ça.
On a eu Clermont-Le Mans, match de parité 1 partout. Grenoble-Bastia 0-0. Dunkerque qui vient mettre une gifle à Amiens 6-2.
Wow. Ouais.
Laval-Montpellier, victoire de Montpellier 1-0. Saint-Étienne, Guingamp qui perd.
Ça, c'est une défaite importante pour la suite de la saison.
Surtout,
3-2. Hein.
Je ne sais pas si tu as vu la célébration un petit peu de Guingamp à la dernière minute qui a fait parler. Et du coup, on a dit Boulogne-sur-Mer, Restart qui se joue actuellement, d'ailleurs, je pense.
Oui, donc c'est 3 qui est en tête avec 19 points devant Saint-Étienne et Pau, 17 points. Le 4e, c'est Reims, 14 points. 5e, donc le Restart Guingamp, 13 points. Mais le Restart, on va attendre son résultat du match de ce soir. Et donc, effectivement, on en parlait. Bastia, bon dernier.
3 points.
18e avec 3 points. On passe au National, 8e. Journée avec les trois clubs franciliens.
Un petit peu mitigé. Versailles qui perd.
Ouais, ça
peut être
une belle soirée hein, pour les clubs franciliens.
Non, franchement pas ouf.
Ouais. Versailles battu par le Rouen.
Ouais.
Quevilly-Rouen 2-1.
Quevilly-Rouen. Fleury qui perd à la maison contre Bagne.
Ouais, 2-0.
Par contre, le Paris 13 Atlético sont allés chercher le point du nul à Le Puy, donc score de 1-1.
Voilà. Et donc, on va rappeler que c'est Rouen qui est en tête avec 17 points devant Sochaux, Dijon, Versailles, Orléans, 13 points. Et ensuite, Caen, Fleury, bon, c'est dans le ventre mou avec 10 points, ils sont 9e à égalité. Et 11e, Concarneau, Villefranche en Beaujolais et le Paris 13 Atlético avec 8 points. Voilà.
Et donc, si je peux rajouter quelque chose, Versailles a 2 matchs en moins.
Oui.
Donc,
ballotage favorable pour Versailles. Ouais. Hein. Voilà. Allez, un petit mot des féminines avec une nette victoire de. Tiens. Ta copine Katoto qui joue à Lyon maintenant, mais elle jouait pas. Mais son
gros
club a gagné 6-1 contre son ancien club, le Paris Saint-Germain. Ouais.
Et en plus, on verra au classement, mais ça dit beaucoup de choses. Sinon, il y a eu le Paris FC qui a gagné en ouverture de la troisième journée contre Saint-Etienne, 2-0.
Ouais. Et puis, la victoire de Fleury qui va gagner à Marseille, 2-0. Donc, Lyon en tête avec 9 points, devant Le Havre, 7 points, 3e Fleury, Marseille, 6 points, et 7e seulement le Paris Saint-Germain, 4
places.
Points.
Ouais. Ouais.
Voilà. Merci Théo, merci donc Marius. Un petit mot de fin, Eric, merci en tout cas pour votre venue. Hein.
Merci pour votre accueil.
Et vous pouvez revenir quand vous voulez. Dernier petit mot, est-ce qu'il y a des écoles qui viennent voir sur votre centre, voir un petit peu comment ce sport fonctionne Des écoles et puis des actions caritatives, on en parlait un petit peu.
Alors oui, il y a un enjeu énorme de créer une passerelle entre le milieu scolaire et le mouvement sportif, donc du canoë-kayak. Alors ce sont plutôt les clubs qui travaillent avec les écoles, donc le premier degré, donc en accueillant des scolaires. Nous, on travaille plutôt avec les collèges et on a d'ailleurs, on en est très fiers, on a co-organisé avec l'Union sportive du sport scolaire les championnats de France de canoë kayak, au mois de c'était en mai ou juin, j'ai un trou de mémoire. C'était une très très belle réussite. Donc c'est parce qu'on a bien compris que il y a des passerelles, c'est-à-dire les gamins à l'école viennent avec les AS pratiquer dans les clubs et souvent ils restent ensuite pour continuer. Mmh. Donc c'est un enjeu important.
Très bien, merci en tout cas. À très bientôt. Hein.
Merci.
Et puis, l'antenne de Mon Paris FM, elle vous est ouverte. Voilà, belle soirée à toutes et à tous. Merci à Willy. On finit en musique. La semaine prochaine, on sera à Meudon.
Bien sûr.
On retrouve Eladji et toute sa bande pour Au bout du foot. Belle soirée à toutes et à tous.
Let me talk to you. Come on. So they had the muscle bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her.
and all the vibe and the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanax. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen shorty get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them
FM.